Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Yeah.
Salut, c'est Juliette Katz de Coucou les Girls. Bienvenue dans le podcast, le podcast 100% décomplexé. Et bienvenue pour ce premier épisode hors série en live sur Twitch. Je suis ravie de vous retrouver. Ça, c'est vrai, je suis très très ravie de vous retrouver. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash. Sauf que sur ce format-là, hors série, je reçois deux invités. J'avais envie qu'on ait un peu plus de temps pour creuser, avoir différents points de vue et surtout, j'avais envie que vous puissiez participer, poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Les enregistrements se font assis par terre dans une ambiance cocooning et propice aux confidences, comme chaque épisode audio que je fais pour le podcast. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. J'aimerais qu'on parle de nos parents, de nos relations à nos parents, du rapport qu'on a avec eux, de l'éducation qu'on a reçue et de si on est en accord avec ça ou pas. Et pour ce premier épisode hors série, je suis en compagnie de Louise et de Joséphine. Bonjour les filles, comment ça va ?
Bonjour Juliette.
Ça va ?
On est stressé, je crois.
Ouais,
un peu,
mais ça, ouais. Vous allez vous déstresser si vite. On va oublier les caméras en deux secondes.
Non, on est très contents d'être là.
Est-ce que, avant de commencer, vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie ? Je sais que Louise n'est pas fan de cette question, donc on va commencer avec toi. Je ne sais pas si tu es fan de cette question non plus.
Si, écoute, ça peut se faire.
Bah alors, vas-y, raconte-nous.
Du coup, je m'appelle Joséphine, j'ai 27 ans et je bosse dans la communication, l'événementiel, voilà. Je suis fan de jeux vidéo et voilà, en
okay.
gros.
C'est pas mal. Ok, très bien. Louise ?
Je m'appelle Louise, j'ai 34 ans comme toi, car nous sommes de la même année.
C'est vrai. Et ce qu'on n'a pas dit, enfin, peut-être que tu allais le dire, mais on s'est rencontrés au collège.
On s'est rencontrés au collège, on était au même collège ensemble. Et aujourd'hui, j'anime des retraites entre femmes. Et je travaille aussi un peu sur les réseaux sociaux comme Juliette, principalement Instagram. Donc voilà, je suis entre la thérapie et l'influence, qui est un peu un grand écart facial. Mais voilà, c'est la vie que j'ai choisi de mener, comme tu
dirais. Mais je trouve que l'équilibre, il est plutôt... Enfin, j'ai l'impression que tu as trouvé le bon équilibre.
Ouais, ouais.
Alors, je vais vous poser les mêmes questions que je pose à chaque fois à tous mes invités. Donc, on va commencer par toi, Louise. Mm-hmm. Si tu devais décrire ta personnalité en trois mots.
Vivante, enthousiaste.
Ouais.
Et intuitive.
Ah, ça te définit bien, c'est vrai. Ok, et toi ?
Je dirais aimante, entière et chiante, un peu.
Ok, pas mal. Ça, j'allais dire, ça te définit bien, on ne se connaît pas. Mais...
Effectivement, okay. Mais je suis très chiante.
Très bien. Le mot ou l'expression que tu utilises sans arrêt ?
Le mot ou l'expression que j'utilise sans arrêt ? C'est quoi, toi ?
Moi, ce serait putain ou... Clairement.
Clairement.
Voilà.
Ouais, un mot qui me définit bien, mais que j'utilise plus.
Je sais que... Si,
tu
y
sais
en
ce
a
que
un...
tu vas dire ? Vas-y,
ouais.
Dis.
Ouais. Oui. 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 Louise, quand on parle avec elle, elle t'écoute et tu sens qu'elle t'écoute vraiment parce qu'elle te dit tout le temps oui. 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 Bien sûr.
Ce que je ne vais pas faire pendant ce podcast, parce que ça va être très chiant, mais c'est en effet l'écoute active. Non, un mot que j'inventais quand j'étais petite pour justement décrire mon état et qui n'existe pas en France, c'est « excitimes ». Parce qu'en anglais, on dit « excited », ça veut dire « j'ai hâte, je suis contente », et en France, et en français, il n'y a rien. Donc je dirais « excitimes », un mélange de « contente » et « hâte ».
Ok, ça me va. Alors, on va commencer avec toi. L'endroit où tu te sens le mieux ?
Ça, c'est facile, je dirais chez moi.
Ouais, bah évidemment.
Avec ma copine, mes animaux. C'est, okay. C'est trop cool.
Très bien.
Dans mon lit.
Mais ouais.
Ouais, la joie de bosser dans son lit.
Toi, tu aimes bien bosser dans le lit.
Dans mon canapé, dans mon fauteuil. Ouais. Pas toi ? Enfin, si. On est un peu pareil là-dessus,
si,
non ?
Si, moi j'aurais dit à la maison, mais c'est vrai que plus spécifiquement dans le lit, quoi.
Position horizontale, quoi.
Bien pas sûr, évidemment. Puis les jambes un peu relevées avec l'ordi sur les...
Voilà, vois, ici, le quoi. Téléphone, ouais, voilà.
Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que tes proches disent de toi ? Est-ce qu'ils disent la même chose que les traits que vous avez décrits de votre personnalité ou alors pas du tout ?
Mon mec dit que je suis une octogénaire complètement ermite parce que j'adore être chez moi, j'adore être seule, je suis une introvertie. Et en même temps, je suis gémeaux, donc j'ai quand même un peu les deux côtés. Donc, je suis aussi un peu partout, j'ai tout le temps plein de projets, je suis toujours en train de faire plein de trucs. Donc, pour certains, ils doivent me voir comme une super extravertie, hyper à l'aise, confiance en elle et tout. Et pour mon mec, je suis une octogénaire. Donc, chacun sa vision, tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça appartient aux gens, mais ouais. C'est très...
Non, mais très bien. Mais je trouve que ça te va bien aussi, quoi.
Voilà, un peu les deux. Octogénaire, okay. Excitimes, je dirais. Voilà.
Ok, très bien. Et toi?
Je dirais qu'il dirait la même chose que ma description. Après, ma mère me dit que je suis assez courageuse. Moi, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne suis pas trop d'accord. Mais voilà, courageuse. Et qu'elle m'admirait sur ce point-là. Donc, peut-être que je suis un peu courageuse.
Ok.
Mais voilà.
Ok, très bien, très bien. Donc, on va entamer le premier sujet. Putain, entre l'iPad, les fiches, waouh, je n'arrête pas. La première thématique qui est donc le retour en enfance. Donc, on va parler un petit peu donc, justement de nos parents, mais aussi de ce que nous, on a vécu en tant qu'enfant. Est-ce que vous pouvez me dire quel genre, vous étiez quel genre d'enfant?
Je pense que j'étais quand même assez joyeuse. Après, j'ai appris beaucoup de choses sur mon passé, très récemment en fait. Donc, peut-être que je ne suis pas totalement objective. Moi, j'étais contente étant enfant, pas de soucis. Après, plus j'ai grandi, plus c'était un peu compliqué, on va dire. Le harcèlement, ce genre de choses. Donc voilà, mais pendant un moment, j'étais quand même relativement joyeuse, j'étais contente, je faisais du sport, j'ai des bonnes notes à l'école.
T'as des bons souvenirs de ton enfance, quoi.
Ouais, ouais. Après, je te dis, j'ai appris des choses
Mais on va en parler, bien sûr. Mais là, quand tu te revois en tant qu'enfant, quand tu dis que t'étais joyeuse...
J'étais bien. J'avais des potes, on chantait du Laurie, tu vois, ce genre de choses.
Sympa, bien sûr, évidemment. Ma meilleure amie.
Exactement.
Bien sûr, évidemment.
Exactement.
Et toi, t'étais comment?
Je dirais que j'étais un peu... comme aujourd'hui, en beaucoup plus hystérique, tu vois.
Ouais.
Voilà. Je pense que je me suis quand même un peu posée, un peu ancrée. Pour ceux qui aiment l'astrologie, Gémeaux, signe d'air et je suis ascendant taureau, donc je pense que je m'ancre un peu plus avec ça. Ouais, pareil, moi j'ai l'impression que je me suis un peu perdue, sans trop rentrer dans les détails, mais dans ma vingtaine, où là je ne me reconnaissais plus du tout. Des épisodes dépressifs, de l'angoisse, etc. Et là, j'ai l'impression d'avoir retrouvé... ouais, c'est comme on dit un peu cet enfant.
Tu retrouves un peu ton enfant intérieur, comme on dit, quoi.
C'est ça. Ouais, je me sens assez alignée avec la petite fille que j'étais, quoi.
Ok, parce que moi, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans mes souvenirs, moi, j'étais aussi hyper joyeuse et machin, j'avais peur de rien, etc. Et plus on grandit, plus on se... Enfin, moi, en tout cas, plus je me sépare de ce que je pouvais être enfant. Et c'est vrai qu'il y a un moment, vous me dites ce que vous en pensez, mais il y a un moment où tu dis « Ah, en fait, j'aimais bien cette naïveté, cette candeur, tu sais, de légèreté, de machin. » Je sais pas si ça vous parle, ce truc-là. T'as envie de dire « Oui, oui. »
Je le dis avec la tête, mais je le dis pas avec les mots. Moi, ça a commencé, j'ai commencé à déconstruire justement un peu toute mon enfance quand j'ai commencé ma thérapie à 21 ans. Et évidemment, je me suis prise de passion pour le développement personnel, la thérapie et tout. Mais je trouve que le danger de la thérapie, c'est de nourrir le monstre, surtout les thérapies en France, quoi, où on va beaucoup voir les failles, les peurs, et on va beaucoup déconstruire, mais pas forcément construire, surtout si on n'est pas en coaching en même temps, quoi. Ça va être beaucoup pourquoi et revenir dans l'enfance, etc. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu ma passion de la thérapie, un peu alimenter le monstre en moi qui cherchait toujours à aller plus loin et à aller plus profond et à comprendre encore.
Ouais.
Et ça, je pense que ça m'a perdu, ça et évidemment plein d'autres facteurs, mais ça m'a perdu un peu dans des espèces de dépressions chroniques où là, en effet, je ne me reconnaissais plus du tout parce que je ne reconnaissais plus du tout cette joie que j'avais quand j'étais enfant, quoi.
Ouais, c'est
ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Si, plus ou moins quand même, si. Est-ce que tu peux nous dire un peu, Joséphine, dans quel univers tu as grandi, justement, pour un peu expliquer ton enfance, dans quel univers tu as grandi?
Du coup, je rentre dans le détail.
Tu
là.
Peux rentrer dans le vif du sujet, bien sûr.
Alors du coup, moi, je suis née sous X. Donc, à l'âge de 3 mois, j'étais adoptée par des parents qui étaient blancs. Donc, c'est une adoption transraciale, on va dire. Et du coup, voilà, j'ai grandi dans un monde très blanc, du coup. Un peu de mal à me représenter, en fait. Quand j'étais petite, j'étais voir une psychologue, d'ailleurs, pour ça, parce que... Enfin, c'est ma mère qui m'a raconté tout ça, mais... vu que mes parents ne me ressemblaient pas et qu'en plus ils étaient blancs et moi je suis métisse, c'est compliqué pour moi de me représenter et j'étais un peu, enfin j'étais pas bien, quoi.
Et là tu parles de quel âge à peu près?
J'étais jeune, hein, je devais avoir, je sais pas, 4-5 ans, peut-être. Okay. Et du coup, voilà un monde très blanc. Après, en soi, moi, mes parents ont toujours été honnêtes avec moi. Du coup, ils m'ont jamais caché la vérité, même si...
Oui, j'allais te demander si à un moment, ils t'en ont parlé, ils t'ont parlé de ça.
En fait, dès que j'étais en âge de comprendre, ils m'ont dit.
Ok.
Et de toute façon, ils n'auraient pas pu me le cacher très longtemps, vu que... Voilà, la différence se voit. Mais sinon, après, moi, j'ai une belle enfance. Après, mais pour le coup, mes parents habitaient donc à la campagne. J'étais pas très confrontée à des personnes de couleur. Et du coup, ça aussi, ça a engendré d'autres problèmes, notamment le racisme que j'ai un peu vécu. Et ça, pour le coup, mon cerveau s'est dit, bon, tu vas oublier ça, c'est mieux. Et ça, c'est ma mère qui m'a raconté
t'as
tout ça.
Occulté ce truc-là
Ouais, j'occultais plein de choses.
Mais que tu vivais quand t'étais vraiment gamine à 5-6 ans?
Un peu plus tard, en fait. Je me rappelle de certaines choses. Je ne sais pas si tout est dû au fait que je suis métisse. Mais en fait, il s'est passé plein de choses. En fait, par exemple, il y a des filles qui me disaient « Jette-toi dans la boue », tu vois. Ce genre de choses. On ne demandait pas ça à d'autres personnes, tu vois. Ouais. Et bref, très
bizarre.
Ah oui,
bizarre. Du coup, tu sentais qu'il y avait un truc où tu... Enfin, oui. Différente, j'aime pas du tout ce terme-là, mais qu'il y avait une différence, quoi. Il y avait
exactement.
Un truc... Ouais.
Mais il y avait une fille, d'ailleurs, qui m'avait dit « Nous, on n'a pas envie de jouer avec toi parce que t'es noire ». Voilà, donc ce genre de choses un peu compliquées. Mais après, moi, pour le coup, pour revenir aux parents, j'ai eu de la chance parce que moi, pour le coup, ma mère a toujours été... Enfin, elle s'est toujours battue, en fait. Dès qu'il y avait un problème à l'école ou même ailleurs, elle a toujours parlé au prof pour essayer de régler les trucs parce que moi, j'en avais parlé à l'époque. Et voilà, elle s'est toujours battue pour que ce genre de choses n'arrive plus. Et du coup, voilà, en gros. Mais sinon, une belle enfance, on va dire. Et,
ok.
Et voilà.
Tu nous expliqueras un petit peu plus après ce qui se passe actuellement dans ta vie. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel univers toi t'as grandi ?
Ouais. Moi, j'ai grandi dans un environnement d'artiste qui gagne sa vie en tant qu'artiste, quoi. Donc, on a grandi à Montmartre. J'aime bien dire Montmartre parce que c'est pas Paris.
Oui, c'est vrai.
Il y a vraiment un cocon.
Village, ouais.
Moi, j'ai l'impression d'avoir découvert Paris justement quand je suis rentrée au collège et qu'on s'est rencontrés et que j'ai dû prendre le bus et sortir justement de Montmartre. Et me rendre compte que Paris, c'était d'une violence inouïe alors qu'on était vraiment dans notre petit cocon Montmartrois, quoi. Le passage de la Sorcière, la rue Le Pic, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment des tout petits endroits entre nous, où on était entre nous, comme dans un village, vraiment. Moi, mon père est comédien, auteur, réalisateur, producteur, acteur, etc. Donc, on va dire que les week-ends, on était... on allait voir des films, on est une ambiance très... Voilà, à regarder des films tout le temps.
Il y avait beaucoup de culture, quoi.
Beaucoup de culture, ouais. Beaucoup de voyages. Voilà, beaucoup d'opportunités, d'ouverture sur le monde, de curiosité, de sens critique. Je dis tout ça parce que avant je m'en rendais pas compte et maintenant que je vis à Marseille, je vois tout ce que j'avais et que je prenais un peu pour acquis où je pensais que et en fait non, il y a des villes ou des campagnes peut-être où au niveau de la culture c'est beaucoup moins. Donc enfance très privilégiée, très joyeuse et très créative, quoi.
Ouais.
Toujours en mouvement. Et...
Ouais. Je me demande du coup quel genre d'éducation t'as eu. Est-ce que c'était une éducation laxiste, sévère
Alors mes parents, avec ma sœur, ont dit qu'ils ont eu une éducation non interventionniste.
Ok. Pour ne pas dire laxiste.
Laxiste, je sais pas parce que, j'ai jamais eu de déviance extrême, tu vois, dans la drogue ou dans des trucs comme ça. Il y a toujours eu quand même un cadre sécurisant qui a fait que voilà, on s'est construit relativement correctement, mais j'ai l'impression qu'ils guidaient par l'exemple. Enfin, tu vois que c'était plutôt regarde comment je suis et regarde quelle valeur j'ai et prends exemple là-dessus plutôt que fais ça. Tu vois, ils n'étaient pas du tout dans le fais ça. Je pense que tous les deux, ils étaient assez, humbles et dans la remise en question, etc.
Et plus dans un truc de reproduire... ce que nous on fait, quoi.
Ouais, mais sans le dire, tu vois, c'était plus vraiment... Enfin, je pense que de toute façon, la meilleure manière d'éduquer, c'est d'incarner. Je dirais que c'était ça, quand même, leur manière de nous éduquer, parce qu'évidemment, ils nous disaient non à des moments, etc. Mais je veux dire, on s'habillait comme on veut. Enfin, on avait quand même une grande liberté d'expression et d'être, parce qu'eux-mêmes étaient de toute façon en porte-jartelle sur Canal+. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, nous dire comment nous habiller, c'est quand même pas très possible.
Ouais.
Donc, quand même, grande liberté d'expression, mais voilà, avec un cadre posé par les valeurs, je dirais surtout. Tu vois, je me souviens de mon père qui nous faisait ça à chaque fois qu'on ne disait pas merci. Je me souviens de ce truc et ça me piquait la tête, quoi.
Il y avait un manque de politesse, quoi.
Ouais, voilà. enfin les valeurs les plus importantes, c'était vraiment la politesse, le respect et le fait d'être assez discret, tu vois, ce que j'ai pas du tout.
Et OK, d'accord.
Pris, okay. Mais voilà, c'était ça en tout cas leur valeur principale quoi.
OK. Ouais. Et toi ?
Du coup, je dirais un peu pareil, il y avait vraiment un cadre, des valeurs, la politesse, la base. Après mes parents ont jamais été hyper stricts, ils étaient un peu plus protecteurs, on va dire. On m'a jamais empêché de rien faire. Mmh. Ils étaient vraiment entre les deux, en fait. Pas laxistes, mais pas trop stricts.
Pas sévères non plus, quoi.
Voilà. Ouais. Et moi, ça m'allait. Et du coup, j'ai fait mes propres expériences. J'ai appris de mes erreurs, mais toujours... Enfin, on m'a jamais empêché. Mmh. Voilà.
Ouais, moi, je pense que c'est un peu pareil. Enfin, moi, j'ai eu des parents... un papa un peu, enfin, complètement dans le milieu artistique et une mère qui était psy. Et il y avait vachement ce truc d'ouverture de la parole, en fait. Mais je parle pas de quand t'as 3-4 ans, enfin, quoique si. Mais c'est une autre génération, hein, vraiment. Je pense que nos parents, ils ont plus ou moins le même âge, je pense. Et j'ai vraiment grandi dans un truc de fait. C'est vie, fait, on est là pour toi, on t'aime, on te donne ce qui est possible, voilà. Mais vraiment, il y avait une liberté, mais pas de laxisme. Juste, peut-être qu'il y avait du laxisme à des endroits, bien sûr, mais voilà. Est-ce que justement, vous êtes en accord avec l'éducation que vous avez reçue ou est-ce que c'est un truc où, ah tiens, il a manqué des endroits, enfin, il a manqué des choses à des endroits
Moi, ça va, pour le coup. Enfin, j'ai pas souffert. Je pense que j'aurais pas aimé grandir dans un environnement hyper strict et j'aimerais pas le reproduire parce que je pense que ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Et pareil, en fait, pour le laxisme, je pense que c'est là que tu peux perdre tes enfants, en fait, dans les deux cas. J'ai pas envie que, par exemple, si un jour j'ai des enfants, qu'on m'en veuille ou quoi. Enfin, pour moi, on apprend par soi-même. Faut pas qu'on nous bloque, en fait, à faire des choses. Mais il faut quand même un certain cadre, en fait, un minimum.
Ouais, voilà. Je suis d'accord. Et toi ?
Bah, moi, comme je le disais, j'ai commencé à tout déconstruire. Enfin, déjà, au lycée, j'étais passionnée de philo. Et ce que j'aimais dans la philo, c'était justement, tu vois, tout déconstruire, tout réapprendre, repartir de zéro. Enfin, voilà, cette idée de déconstruction, moi, elle m'a toujours passionnée. Donc, philo, puis psycho, mais en fait, c'était un peu le même schéma. Donc, évidemment, une grosse partie de ma vingtaine... je leur en ai voulu. Enfin bon, toutes les étapes par lesquelles on passe quand on fait une thérapie, hein, de la colère, mais pourquoi ? Je me suis même dit à un moment, mais je comprends pas qu'il n'y ait pas un permis. Quand j'y pense maintenant, c'est complètement débile, mais quand j'avais 20 ans, je me disais, mais comment c'est possible que tout le monde puisse faire des enfants ? On devrait mettre des permis pour faire des enfants. Bon, voilà, je passais par tous ces genres de pensées, mais du coup, j'ai fait mon tri, quoi. J'ai fait mon tri dans ce que je garde et dans ce que je garde pas. Je dis toujours un peu que j'ai fait un peu la guerre et ce qui est resté, les petites plantes qui sont restées en vie, c'est les petites plantes qui devaient être là, quoi. Mais bon, j'étais en plus très extrême à ce moment-là et très à fond, quoi. Donc, j'y allais à fond. J'ai fait beaucoup de week-ends de thérapie de groupe, un peu ce que j'anime aujourd'hui.
À 20 ans.
Ouais. Dans ma vingtaine, quoi. J'en ai fait énormément. Enfin, j'en ai fait
précoce,
énormément.
Précoce, enfin, tu vois. Enfin, précoce. Je trouve que ça, c'est un truc qu'on fait plutôt dans notre... Enfin, t'as quel âge, redis-moi?
27.
Bah ouais, non, enfin, c'est à notre génération, tu vois, 20 ans, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop dans ces démarches-là, donc...
Mais surtout, il y a 15 ans, on parlait pas du tout de mental health et de développement personnel, etc. Il y avait même pas Instagram, enfin, c'était... Ouais. Moi, j'étais une ovni, et j'étais d'ailleurs la seule dans ces week-ends-là de thérapie de groupe à avoir 20 ans, ils étaient tous dans leur crise de la quarantaine, tu vois, parce que c'est ça, tu vas là-bas quand t'es dans ta crise de la quarantaine, mais moi, j'étais passionnée, j'adorais cette idée de libération émotionnelle, cette idée de déconstruire les schémas, justement, un peu le thème d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu gardes pas, le transgénérationnel, enfin tout ça, ça m'a passionnée. Donc voilà, j'ai fait mon tri et aujourd'hui, on en parle beaucoup nous deux, on est donc maman et on a des enfants qui ont à peu près le même âge. Et du coup, c'est hyper intéressant de se voir parfois reproduire.
Ouais.
Enfin, moi, je vois ma mère, quoi. Enfin, clairement, oui.
Justement, on va en parler de ça parce que c'est un peu plus loin, mais je trouve ça hyper intéressant. Mais juste, tu parlais un peu de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Est-ce que pour vous, il y a eu des valeurs qu'on vous a inculquées ou maintenant vous dites, en fait, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma base ou pas? Des trucs où tu dis ça, vraiment, mes parents, ils ont été intransigeants là-dessus et je l'ai gardé. Tu vois ce que je veux dire ?
Moi, c'est plus déjà la politesse.
Ouais.
Ça, voilà. Après, plus l'ouverture, en fait. On m'a toujours inculqué ça, d'être ouverte aux autres, de ne pas juger. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'essaye de faire.
Ouais.
Bon, parfois, on ne fait pas forcément, mais en tout cas, voilà, l'ouverture d'esprit sur les autres.
Je crois que j'ai pas eu des parents qui m'ont inculqué ce truc d'ouverture d'esprit. Ils ont pas été dans le contraire, mais juste ils me l'ont pas inculqué. Tu vois, il y avait pas cette notion de...
Oui, mais est-ce que eux-mêmes étaient dans l'ouverture d'esprit?
Oui. Mmh. Bah oui, forcément. Enfin, c'est des 68ards qui ont fait. Enfin voilà, donc oui. Mais j'ai pas senti que j'ai grandi dans un univers de. On accepte les gens, on est tolérant avec les gens, on est bienveillant. J'ai pas grandi dans cet univers-là, mais pas l'opposé, quoi. Tu vois. Mais mais je trouve que c'est une vraie valeur importante, quoi. Et toi, il y a eu quelque chose qui t'a marqué?
Ouais, ça, l'amour du débat, je pense quand même, et le fait de pouvoir rire de tout, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Enfin, tu vois, moi, il y a Génération Z, ils sont géniaux, je trouve, mais il y a des sujets où on ne peut pas discuter avec eux, parce que si tu discutes, ça veut dire que tu es contre eux et tout d'un coup, tu es canceled. Tu vois, et ça, je trouve, c'est un peu dommage. Enfin, je trouve, à notre époque, il n'y avait pas ça. On discutait de tout, on échangeait sur tout. Il y avait des vrais débats. Et je trouve qu'aujourd'hui, particulièrement avec les réseaux sociaux et la génération Z, bah, il y a certains sujets, tu te dis, c'est pas abordable, quoi. Ouais. Enfin, c'est trop sensible et c'est dommage. Enfin, moi, je trouve que c'est ça qui est dangereux, quoi. Moi, je trouve qu'on devrait parler de tout, éduquer sur tout, débattre sur tout et tout est OK. On ne sait pas tout sur tout. Et je trouve aujourd'hui, il y a des sujets un peu interdits, tu vois. Et je trouve ça, c'est
mais
un peu inquiétant. Non, du tout.
Non,
je parle en
règle générale.
En règle générale. Et justement, moi, la valeur de ma famille, ça a été ça, quoi.
Oui,
j'avais
pas compris.
De tout, d'échanger, de débattre, de rire de tout et de pouvoir tout. Ouais.
Ok. Et est-ce que justement, il y a des choses que vous aurez aimé, que vous auriez aimé qu'on vous apprenne, ou est-ce qu'il y a des choses où vous avez manqué, enfin, moi, je sais que j'ai manqué, typiquement. Je ne sais pas si mes parents regardent ce live, mais en tout cas, s'ils vont le regarder, désolé. Vraiment, je vous aime très fort, mais il faut que j'en parle. Moi, j'ai grandi typiquement dans une famille, donc avec une mère psy. Du coup, on parle beaucoup, mais en fait, on écoute les problèmes de son enfant, mais on ne les entend pas, tu vois. Donc, en fait, pour moi, et je l'ai nommé il n'y a pas si longtemps que ça en thérapie, qu'au final, j'ai manqué d'amour. J'avais de l'amour, j'avais des cadeaux, j'avais de la présence, etc. Mais j'ai manqué de l'amour parce que j'ai manqué de considération, tu vois. On t'écoute, mais on n'entend pas les souffrances ou les failles, tu vois. Donc, est-ce que vous, il y a des choses où vous êtes dit, tiens, j'ai manqué de ça, en fait. J'ai manqué de cette base-là ou pas.
Moi, je pense que, enfin, j'aurais aimé en fait qu'il y ait moins de, comment dire, de tabous sur certaines choses par rapport aux sentiments, par exemple.
Pourquoi on se dit pas je t'aime?
Avec ma mère, oui, maintenant. Bon, avant c'était un peu compliqué, mais aujourd'hui ça va. Mais mon père, bon, faut même pas rêver. Enfin, il peut le dire. En fait, c'est compliqué. Il peut te le dire comme ça, mais il va pas développer, en fait. C'est je t'aime pour dire je t'aime. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, enfin, j'aurais bien aimé, bon, plus avant, parce qu'on en parlera, mais plus avant, en fait, j'aurais aimé, je sais pas, qu'on développe plus
les émotions.
Cette relation. Oui, les émotions, en fait.
Ouais.
Et c'était un peu... Il y avait un peu de distance. Voilà.
Ça, c'est marrant parce que j'entends souvent pas mal de familles, enfin d'enfants, qui parlent de leurs parents où il y a beaucoup de pudeur, tu vois. Il y a un truc au niveau des émotions de dire je t'aime, ben on est pudique. Et je juge pas, bah si, c'est un mini jugement de merde, mais c'est vrai que je trouve, mais je dis ça, je suis jeune maman et on verra plus tard et machin, mais que justement de dire je t'aime, de dire je suis fière de toi, tu peux être fière de toi, viens on va dîner, viens on va se retrouver, comment ça va à l'école, en fait ça apporte des bases hyper solides, tu vois, à l'enfant de... Donc c'est pour ça que la pudeur dans la famille, j'avoue que moi c'est un truc qui est un peu lointain, mais je l'entends aussi. Hein. Mmh. Voilà, c'est tout.
Ouais, moi, famille très pudique aussi, maintenant que vous dites ça, parce que je pourrais dire plein de choses, mais ça, ouais, très pudique aussi. Dans l'échange, mais voilà, émotionnellement aussi. Enfin, un parent, c'est un peu comme un thérapeute, il peut accompagner jusqu'où il est allé lui-même, quoi. Et si le parent n'a pas forcément bossé sur lui ou qu'il n'est pas hyper à l'aise avec certaines émotions, qu'il n'a pas fait un travail, enfin bon, X, ça crée du coup des blocages, des retenues, de la pudeur, etc. Et c'est absurde de se dire, il y a de la pudeur dans de la... Enfin, en famille, oui, de la pudeur, c'est bien, mais je veux dire, c'est quand même censé être le cadre... tu vois, le plus proche et le plus sécurisant et le plus... Et qui est comme ça, de la pudeur sur les émotions.
Il y a une personne qui dit la pudeur, c'est une sorte de respect. Et en fait, j'entends ce que ça veut dire parce que c'est aussi respecter les émotions de l'autre. Mm-hmm. C'est pas être intrusif. Exactement. Et pas dire je t'aime tout le temps. Mm-hmm. Ou, donc peut-être qu'il y a,
oui, oui.
Peut-être qu'il y a de ça, effectivement.
Il y a de ça, et le truc, c'est le juste milieu, quoi. Oui, de toute façon, c'est génial de ne pas avoir des parents intrusifs, etc.
Et puis parfois, c'est même pas un manque. Enfin, je pense que vous, c'est pareil, mais le nombre de gens que j'ai connus autour de moi qui me disent mes parents m'ont jamais dit je t'aime, je leur ai jamais dit je t'aime, mais on sait qu'on s'aime, et du coup, on n'a pas besoin de se le dire. Tu vois, c'est aussi des manières de communiquer qui sont... T'es pas d'accord avec ça?
Moi, je pense qu'il y a besoin de dire les choses, quand même. Parce que si on part de ce principe-là à chaque fois, oui, mais il sait.
Oui,
mais
oui, je suis d'accord.
Imagine, il se passe que... Enfin, je sais pas, la personne meurt, tu vois. Je pense que t'aurais envie, quand même, qu'elle sache ça. Et si tu te dis, oh, bah, elle le sait, enfin, je sais pas, je suis pas trop d'accord. Je pense que quand on ressent quelque chose, moi, je suis très comme ça, quand on ressent quelque chose, il faut le dire. Que ça fasse mal ou pas, mais c'est important de
dire
mettre
les mots,
un mot
quoi.
Sur ses émotions. Quoi.
T'es d'accord avec ça?
Ouais, de verbaliser. C'est ça, verbaliser, je pense que dans ma famille, c'était un peu dur. Je pense que c'est peut-être pour ça que moi, j'ai eu ce besoin, peut-être comme toi, de beaucoup verbaliser, mettre des mots et comprendre et analyser, etc. Peut-être que ça manquait un peu de franchise et de transparence, quoi. Même si l'amour était là et on le sentait, et à la limite à choisir, je préfère sentir l'amour vraiment dans mes tripes et dans mes... que d'avoir un je t'aime qui n'est pas incarné. Enfin, tu vois, à choisir. Mais en effet, c'est mieux d'avoir les deux. Hein. Ça, c'est sûr.
Bah, ça, c'est clair. Justement, je voulais savoir toi, parce que donc, tu as une sœur et un frère. Vous avez plus ou moins... Vous avez combien d'années de différence?
J'ai une sœur qui a 2 ans de plus que moi et un petit frère qui a 5 ans de moins que moi.
Ok. Est-ce que vous avez reçu la même éducation?
Oui.
Vous avez reçu un peu ce truc de différence d'éducation selon les sexes, par exemple, tu vois, garçon-fille, selon la place dans la fratrie, le petit dernier est-il vraiment le chouchou à qui on laisse tout faire, etc. Oui.
Bah, ouais, le petit dernier, bah, surtout 5 ans d'écart et 2 filles, 1 garçon. Donc, je pense quand même il y a des différences. Et surtout, je pense que les parents ne sont pas les mêmes à différents moments où font des enfants.
Ouais.
Donc, même s'ils voulaient faire exactement la même chose, ça serait impossible parce qu'il y en a déjà un, parce qu'il y en a déjà 2, parce qu'ils sont dans autre chose, qu'ils ont évolué, qu'ils ont grandi. Je dis oui et en même temps déjà je peux pas parler à leur place et en plus non c'est jamais exactement la même chose mais oui ce truc de
les
justesse
les valeurs les machins
oui et ce truc d'équilibre enfin tu vois quand on donne ça à l'un on donne la même chose aux autres pour pas créer de blessures d'injustice ça il y a eu beaucoup enfin c'était une valeur qui était très importante pour eux. Donc, il y avait beaucoup, on était traités. Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'on était traités de la même manière. Mais ce qui est fou, c'est que j'entends souvent des parents, justement, ou des filles qui me suivent, etc., qui me disent « Moi, j'ai fait exactement la même chose avec les trois. » Et les trois sont radicalement différents. Je pourrais pas avoir fait des enfants plus différents, etc. Donc, quelle est la place de la nature et de la culture? Moi, ça, j'ai aucune réponse, mais ça me fascine. Est-ce qu'un enfant naît avec une personnalité ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment que ses conditionnements, etc.? Enfin, ça, c'est un autre débat, mais... Mais je pense que in utérin, déjà, ça joue beaucoup. Enfin, moi, je le vois dans mes stages, les femmes qui ont des répercussions de comment leur mère se sentait déjà enceinte. Enfin, tu vois, ça commence là. Mais il doit y avoir des deux. Mais ça me fascine de me dire comment un enfant peut avoir une personnalité. Enfin, pour moi, je trouve ça magique.
Je vois très bien ce que tu veux dire.
Sans conditionnement et sans culture. Ouais. Pour moi, c'est lunaire de penser ça. Ouais. Mais je suis sûre que c'est vrai, mais j'arrive pas à le concevoir. Tu vois.
Ouais. Bah, tu vois, moi, j'ai grandi. Enfin, j'ai un grand demi-frère qui a 15 ans de plus que moi, qui est le fils de ma mère. Et lui vous dira qu'on a grandi ensemble, mais moi, je ne l'ai pas vu comme ça, parce qu'il est parti vivre ailleurs à un moment, etc. Et je pense honnêtement qu'on n'a pas eu la même éducation, déjà parce que c'est exactement ce que tu dis. En fait, mes parents ont grandi, enfin ma mère. Je suis née 15 ans après mon frère, donc forcément. C'est vrai qu'on n'a pas du tout eu la même éducation. Pas du tout, quand j'y repense, c'est vrai qu'on n'a pas du tout... Je pense qu'on a eu les mêmes bases, mais en même temps, je vais vous dire un truc, c'est que moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu de base, mais pas dans un truc négatif, tu vois. Mais j'ai pas eu de... Je crois que je suis sortie parce que voilà, mon père manageait des artistes, donc je sortais, j'allais à taratata dans les backstage, je voyais des artistes, machin et tout. J'ai grandi dans cet univers, mais j'ai pas grandi dans des bases de « fais tes devoirs, on mange à table, nous on dînait pas, enfin on faisait rarement des dîners de famille ». On était plutôt chacun, on mangeait un peu devant la télé ou avec un plateau, enfin tu vois. Donc voilà, mais en tout cas, en termes d'éducation, je sais même pas. Je sais même pas. Et toi, du coup, le fait d'avoir grandi seul, parce qu'on va en parler après, mais le fait d'avoir grandi seul, est-ce que ça t'a manqué, en tout cas, d'avoir frère ou sœur ou ça t'a manqué, t'as ressenti...
Oui, non, enfin, pour le coup, moi, j'ai... Enfin, je sais plus quel âge j'avais, je crois que j'avais 6 ans.
Ouais.
Je me rappelle, ouais, j'étais au CP, et je crois que j'avais demandé à ma mère, en fait, bah, si c'était possible d'avoir un petit frère ou une petite sœur, tout simplement. Et du coup, bon, en fait, je comprends, quand je prends du recul aujourd'hui, mais mes parents n'étaient pas du tout chauds pour ça. Donc, je crois qu'ils ont quand même fait une demande d'agrément, du coup, pour adopter à nouveau. Mais j'ai jamais eu de nouvelles, en fait. C'est okay. Vraiment, on l'a fait, t'inquiète. Okay. Et voilà, pas de nouvelles. Mais oui, en fait, j'ai toujours voulu avoir un grand frère, je ne sais pas pourquoi. Mais un grand frère, modèle, en fait.
Ah, d'accord.
Je pense. Un modèle masculin, peut-être parce que mon père, c'était pas trop ça aussi. Donc voilà, j'en ai vraiment manqué. Mais après, quand j'ai grandi, c'est un peu passé parce que tu acceptes et tu te dis que bah, de toute façon, tu n'auras pas de frère, de sœur. Donc voilà.
On va passer à la deuxième thématique qui s'appelle « Si, si, la famille ». Bien sûr. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu quels sont vos rapports avec vos parents aujourd'hui ?
Oula.
J'aime bien le oula, oh waouh, ok.
Tu veux commencer ?
Non, vas-y.
Ok.
Vas-y.
Parce que la question est la prochaine question est pour Joséphine.
Ok. C'est quoi notre rapport avec nos parents aujourd'hui ?
Ouais, c'est quoi, ouais.
Eh bah, beaucoup mieux. Beaucoup mieux quand même qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 15 ans. C'est quand même tous les avantages de travailler sur soi et tout ça.
T'es après, proche de tes parents ?
Ouais, je suis proche. Après, tu vois, je suis pas contre. Enfin, je trouve qu'il y a des thérapeutes qui travaillent beaucoup avec le fait de se séparer entre guillemets des relations toxiques et qui construisent. Enfin, tu vois, qui aident aux gens à se construire par la séparation et par couper des liens toxiques. Et il y en a d'autres qui se construisent avec. Moi, je pense que j'avais plutôt un thérapeute qui m'encourageait à couper les liens toxiques. Donc, j'ai coupé les liens pendant un moment. Quoi,
avec qui ?
Avec ma mère, notamment.
D'accord.
Et je pense qu'il y a eu une espèce de renaissance, du coup, suite à... Enfin, tu vois, quand on s'est recontacté, ouais. Qu'on a repris contact, il y a eu une espèce de renaissance. Et cette, j'ai envie de dire, mort de relation a créé du coup une renaissance beaucoup plus ouverte, justement, beaucoup plus dans l'échange, ouais. Dans la communication, dans le fait de se dire les choses.
Et tu l'as sentie ouverte que toi, tu l'étais ?
Aussi ouverte ?
Ouais, que ta mère était aussi ouverte à cette nouvelle relation,
oui,
que
oui,
toi,
oui.
Tu étais prête à ça ?
Oui, 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 complètement. Enfin, c'était dans les deux sens. Et c'est pour ça que... Enfin, tu vois, ce truc de dire « Ah, mais voilà, il ne faut pas couper parce que c'est notre famille, etc. Bah, » parfois, de faire un petit break ou de couper tout court, ouais. Ou de poser ses limites pendant un temps, ou de couper pendant un temps, bah, ça peut, par la suite, faire naître, en fait, de nouvelles relations, quoi.
Ah, complètement.
Voilà.
Et c'est marrant parce que j'en parlais lors d'un des derniers lives, on parlait de je ne sais plus quoi. Et en fait, j'ai dit que donc voilà mon demi-frère, j'ai décidé de couper les ponts, tu vois, avec lui. Ça a été mon choix. Ils n'étaient pas OK avec ça. Je m'en suis pris plein la gueule et je l'entends à 12 milliards. Hein. Mais que ce choix-là, et je pense que c'est très juste, c'est que ce que je disais dans l'autre live, c'est que c'est pas parce que c'est la famille qu'on doit tout accepter. C'est pas parce que c'est la famille qu'on doit aimer les personnes de notre famille. Parce que, enfin voilà, c'est comme ça. Et que c'est pas parce qu'on coupe ou qu'on n'aime pas qu'on est des mauvaises personnes. Enfin, c'est hyper important de le dire aussi. Et que de couper, comme tu le dis, peut aussi renaître une nouvelle relation après. Ou pas.
Ou pas.
Et c'est aussi OK.
Exactement.
C'est important de le dire, je trouve. Voilà. Et toi ?
Du coup, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un tabou sur le fait de couper les liens avec certains membres de sa famille, en particulier le père et la mère. Et je suis vraiment pas d'accord avec ça, quoi. Enfin, au bout d'un moment, quand il y a une relation toxique, peu importe qui c'est, que ce soit des amis ou de la famille, il faut couper pour soi. Et du coup, les liens que j'ai en ce moment avec mes parents, avec ma mère, ça va très bien. Je l'ai tous les jours au téléphone. On est très, très proches. Et du coup, mon père, je ne lui parle plus. On se voit, en fait, quand je vais voir ma mère, parce que
d'accord,
je tiens quand même à...
un peu...
Voilà. Et oui, mon père, disons que... alors, on va rentrer un peu dans le vif.
C'était la prochaine question, justement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui se passe en ce moment dans ta vie ?
C'est pas en ce moment. Disons que... Donc là, pour finir sur mon père, en fait, mon père est malade depuis 11 ans.
D'accord.
Parce que j'avais 16 ans quand ça a commencé. Et du coup, j'en veux extrêmement par rapport à ça, parce qu'il veut pas se soigner.
D'accord.
On a déjà eu la discussion.
Mais c'est pas ce qu'il a.
Je pense que c'est un cancer ou
d'accord.
quelque chose comme ça. Ouais.
Okay.
Donc du coup, moi, je l'ai accepté au fil du temps parce que pas le choix. Mais du coup, oui, en gros, il me rendait, on va dire, la vie impossible quand je vivais encore chez eux. Et il rend encore la vie impossible à ma mère parce que ma mère ne veut pas le quitter, elle veut pas l'abandonner parce qu'en gros, si elle le laisse...
Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble ?
J'en ai aucune, peut-être... 45
ouais,
ans, un truc comme ça.
Moment,
ça fait, oui, oui
ouais.
ça fait longtemps.
Okay.
Que mes parents, du coup, sont plus vieux, vu que j'étais adoptée et que mon père, je crois, avait la quarantaine quand ils m'ont eu. Donc,
tu es née sous X.
Exactement.
Tu as été adoptée à 3 mois.
Trois mois.
Ok.
Ouais.
Et est-ce que tu peux nous raconter justement la suite ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as voulu renouer avec ta famille biologique ?
Le fait que mon père soit tombé malade a fait que j'ai toujours voulu... Enfin, j'ai cherché en fait un autre modèle masculin.
Mmh.
Pas pour remplacer, parce que pour moi, mes parents, même si mon père, bon, un peu déconné, même beaucoup, sera toujours mon père. Parce qu'il m'a quand même élevée et qu'il a été quand même correct la plupart du temps. Mais en fait, je cherche toujours ce modèle masculin, même au travail, en fait. Parce que, par exemple, au travail, je suis tombée sur un mec extraordinaire avec qui je bosse, et qui est mon boss, du coup. Et lui, en fait, quand je le vois, en fait, je me dis « Ah ouais, en fait, j'aurais aimé l'avoir comme père, parce qu'il est tout ce que j'aurais voulu avoir, tout simplement. Mmh. » Et donc ça a été un facteur, je pense, qui a fait que j'ai voulu quand même creuser l'histoire de la famille biologique. Et il y a aussi une amie que j'ai rencontrée au travail. Et en gros, elle aussi était adoptée. Donc, je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui étaient adoptées dans ma vie. Elle, okay. je crois que c'était l'une des premières.
D'accord.
Et elle m'a dit, vas-y, viens, on cherche nos parents.
Nos parents.
Ouais.
C'est fort de le faire à deux comme ça, je trouve.
Ouais. En fait, elle m'a beaucoup poussée. Je pense que sans elle, ça aurait pris encore du temps. Mmh. Et même quand elle m'a proposé le truc, moi, j'ai laissé traîner les choses. Parce que j'avais besoin, je pense, de process.
T'avais peur ?
Je pense, oui. Mmh. Je pense que... En fait, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et du coup, il y a 10 000 questions qui se posent. On a peur parce que, par exemple, moi, j'aurais pu retrouver... Parce qu'on va surtout parler de la mère, en fait. En gros, l'objectif quand on retrouve ses parents, c'est plus retrouver la mère parce que le père, souvent, n'est même pas au courant, en fait, de notre existence. Donc, je me suis dit, ça se trouve, ma mère, peut-être qu'elle est décédée. Je ne sais pas. En fait, quand j'ai décidé d'entamer les démarches, donc ça, j'étais un peu plus jeune, j'avais 18 ans, je suis allée ouvrir mon dossier. Donc ça, c'était au conseil régional de la ville où je suis née.
D'accord.
Et en gros, tu vois une psy.
Ah, mais tu savais dans quelle ville tu étais née ?
Oui, ça oui.
D'accord,
oui,
ok.
Oui, oui. Et donc, tu ouvres le dossier. Donc moi, j'ai vu 2 choses, 2 lignes. Rien de plus, rien de moins. J'ai vu que ma mère était noire et d'origine guadeloupéenne. Et j'ai vu que mon père était blanc et blond. Donc ça explique des choses, parce que je suis un petit peu blonde et j'ai jamais trop compris pourquoi. Enfin, je me doutais, mais en tout cas, là, c'était écrit noir sur blanc.
Ça t'a fait quoi d'apprendre ça ? Est-ce que ça t'a soulagée ? Ça t'a encore plus intriguée ?
Mais en fait, j'étais déçue. Je me dis, déjà que ma mère m'a abandonnée, le peu de choses qu'elle me laisse, c'est 2 pauvres lignes, en fait. Et c'était très dur à accepter. Et, mais bon, j'ai pris, parce que j'avais pas trop le choix. Et du coup, ensuite, tu vois une psychologue.
D'accord.
Et quand il y a la psychologue qui te parle, en gros, elle te dit, il faut que tu imagines toutes les situations possibles. Si tu veux continuer...
Enfin, c'est dur. Enfin, il y a 12 milliards de situations dans ce cas-là.
Moi, je lui ai dit, je pense que ma mère ne pouvait pas assumer à l'époque. Et du coup, peut-être la pauvreté, bref, plein de choses. Mmh. Ses parents ne voulaient pas, par exemple. Et donc, soit ça, il y a aussi le viol qui m'a traversé l'esprit. Est-ce que je suis le fruit d'un viol ? Parce que c'est possible. Et là, c'est dur.
Mmh. Mmh.
Et aussi le fait que... Enfin, la possibilité que ma mère soit peut-être morte, ça aussi. C'est des choses qui sont dures. En plus, j'étais jeune. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai un peu attendu. En fait, moi, j'ai fait les choses petit à petit.
Ouais,
j'ai laissé traîner.
Non, mais c'est bien. C'était le temps dont tu avais besoin pour processer, quoi.
Ouais. Mmh. Et du coup, voilà. Donc là, en gros, j'ai commencé le plus gros des recherches quand j'avais, je pense, 25 ans.
Donc il y a 2 ans.
Ouais.
Ouais.
En fait, j'ai voulu faire les choses bien.
Ok.
J'ai voulu faire les choses, on va dire, dans les règles de l'art, dans la légalité. Et du coup, je suis passée par un organisme qui s'appelle la CNAOP.
Ok.
Donc c'est le Conseil national d'accès aux origines, un truc comme ça.
Ok.
Aux origines personnelles, voilà.
D'accord.
Et en gros, il y a la dame de la CNAOP qui me dit bah écoutez, madame, alors déjà, en fait, la maternité où je suis née a été détruite. Un peu compliqué.
D'accord.
Mais des archives, ça se balance pas, en fait, ça se conserve. Mmh. Mais il fallait trouver où. Parce que vraiment, c'était des enquêteurs. Hein. À la CNAOP, ça fait un peu Sherlock Holmes. Hein.
Okay.
Et du coup, elle cherchait tout ça. Et au bout d'un moment, bah, elle n'y arrivait pas. Et elle m'a dit, mais madame, moi j'ai vraiment l'impression en fait qu'il y a une volonté de ne pas être retrouvée. Votre mère ne veut pas être retrouvée.
Votre mère ne veut pas être retrouvée.
Oui. Et du coup, je l'ai un peu pris mal parce que ouais. c'est une personne qui est censée être humaine quand même. Elle travaille sur des cas comme ça tous les jours. Ouais. Et moi, elle me balance en gros, déjà, on t'a abandonné. Et en plus, elle n'a pas envie, vraiment pas envie d'être ouais. retrouvée. Et j'étais pas bien du tout, donc... J'ai laissé traîner.
Ouais.
Et ensuite, du coup, j'ai fait un autre moyen, un peu détourné. J'ai fait un test ADN pour, du coup, retrouver mes origines.
Via MyHeritage, c'est
ouais,
ça
voilà.
C'est pas du tout un partenariat.
Mais ils sont très
en
bien.
En tout cas, voilà, on connaît bien ce truc-là, ouais.
Ouais. Et oui, du coup, j'ai fait le test.
Ouais.
Un mois plus tard, j'ai eu les résultats. Et du coup, là, je suis tombée des nues. Bon, je savais que j'allais apprendre plein de choses, mais vraiment, j'étais...
Tu savais que t'allais apprendre des choses ou pas ? Parce que parfois, tu peux faire ce test et pas forcément avoir des liens, je crois, hein, c'est possible.
En fait, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs onglets dans le site. Et en gros, il y a un onglet qui te montre tes origines. Donc moi, je savais qu'il y avait la Guadeloupe, mais je savais pas le reste. Mmh. Et du coup, j'étais choquée de voir tous les pays de là où je venais, en fait.
C'était quoi ?
Sur mon dossier, tu te rappelles, il y avait marqué Guadeloupe. Mais au final, ils trouvaient plus de Martinique.
Okay.
Il y a le Maghreb.
D'accord.
Donc, mais c'est des trucs, je ne me serais jamais douté. Ouais. Après, il y avait plein de pays d'Europe, la Suède, enfin bref, ouais, plein de trucs. Et du coup, il y a un autre onglet sur le site. Et c'est là où tu vois tes correspondances ADN. Donc, c'est les gens qui matchent avec toi, on va dire, au niveau de l'ADN. Et du coup, je vois plein de trucs. Je vois 10%. C'est quand même pas mal, quoi. Quand on n'a rien, c'est juste
ouais, bien
énorme.
Sûr, ouais.
Ouais, 10%, 7%, 3%, 0,1%, mais je prends.
Avec
ouais, y a pas
des
de
gens
souci.
Avec qui tu matches.
Voilà.
OK.
Et donc, en fait, les premiers résultats, c'était en privé. Donc, je ne pouvais
D'accord.
pas savoir, en fait, le nom des personnes. Enfin, okay. je voyais juste leur nom, mais pas le prénom. Et
D'accord.
voilà, je ne pouvais rien faire. Non.
OK.
Non, non. Donc là, c'est là qu'est intervenue ma copine, sans qui je ne serais sûrement pas là, parce que c'est elle vraiment qui a mené l'enquête, tu vois, sur Facebook notamment. Et tous les gens où on avait le nom, prénom, et puis s'il y avait la photo, en fait, elle a commencé à faire un petit arbre généalogique de plusieurs wow. noms, en fait. Et du coup, elle a mis des semaines à faire
J'ai
tout ça.
J'ai demandé, elle a mis combien de temps
ouais. Ah ouais, non, elle a mis des semaines. Elle était plus investie que moi, en fait.
C'est beau, ouais. c'est une belle preuve d'amour, hein, ouais. je trouve, hein, franchement.
Ouais, parce que moi, j'étais un peu plus défaitiste. Parce qu'en fait, moi, ça fait 27 ans que je suis dans le truc et je me dis, bon, on va pas trouver Facebook.
Oui, et puis la nana de la CNAOP
ouais.
qui te dit ça, tu dis, bon, vas-y, c'est bon,
ouais,
j'ai donné.
Voilà,
ouais.
j'étais un peu dépité, je ouais. prenais un peu de distance. Et c'est elle qui m'a vraiment poussé, vraiment, nuit et jour, elle était là-dessus, quoi. Mmh. Et du coup, moi, bon. Le fait qu'elle soit investie, ça m'a donné envie de m'investir aussi un peu plus. Et du coup, j'étais sur Facebook, c'était en janvier, je crois, 2022. Et je tombe sur une fille. Je tombe sur une fille et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, mais elle me ressemble en fait. Et je me dis, mais c'est incroyable. Et en fait, je me suis dit, je demandais à d'autres personnes parce que j'avais peur d'avoir un biais.
Oui.
Tu vois, et de voir des choses qui n'étaient pas... Tu vois voir des ressemblances là où elle n'était pas. Et du coup, les autres personnes m'ont dit « Bah si, il y a un truc, hein. Il y a un truc, tu devrais la contacter. » Et moi, ce que la dame de la CNAOP m'avait dit, c'est « Faites attention, parce que souvent, c'est un secret de famille. » Et j'avais pas envie de niquer la vie de qui que ce soit.
Ouais.
Parce que souvent, la femme, enfin ma mère, aurait pu se remarier, ne pas le dire. Au final, c'est ce qui s'est passé. Et voilà.
Spoiler alerte.
et du coup, voilà. Donc, j'ai attendu. J'ai attendu.
Donc, tu ne l'as pas contacté tout
non.
de suite. OK.
Non, non. Parce qu'en fait, il y avait trop de choses. J'étais sûre que c'était ça parce que... Enfin...
Mais tu te disais, cette personne, c'est qui ? C'est ma cousine ? C'est ma sœur ?
En fait, j'en ai parlé à plusieurs proches et je ne sais pas pourquoi moi je voyais une sœur, ce n'est pas possible qu'il y ait autant de ressemblances. En fait, il y avait de la ressemblance, mais il y avait des choses qui étaient bien différentes. Et du coup, je me suis dit, ça peut pas être une cousine, ça peut pas. Enfin, il y a quelque chose de très proche. Et,
donc, t'as pris ton temps.
Voilà.
OK.
J'ai pris mon temps. Et du coup, entre-temps, j'ai essayé de contacter d'autres personnes. Et du coup, j'ai trouvé un de mes cousins que j'ai rencontré. Enfin, c'était une histoire assez. assez comment dire, bizarre, mais en tout cas, bref, on s'est rencontrés et du coup, je lui ai raconté toute mon histoire.
Juste que tu avais matché avec cette personne sur MyHeritage.
Et en fait, cette personne-là, il y avait son nom, son prénom, sa photo, donc ça a été très facile.
Ah, il y avait un profil un peu public.
Voilà.
Ok, d'accord.
Donc, je l'ai retrouvé facilement et du coup, je lui ai dit que, voilà, sur MyHeritage, on avait matché, on va dire, et que j'étais sa cousine. Donc, il a accepté de me voir, il était un peu étonné.
Mais juste quand tu dis cousine, c'est que c'est toi qui l'as nommée comme ça ou c'était vraiment qu'il y avait dans l'arbre que ta nana a pu faire, il y avait un truc où vraiment c'était...
En fait, le logiciel, lui, enfin le logiciel, le site MyHeritage, il va te dire en fait... ce que lui voit, en fonction du pourcentage d'ADN, ça peut être que cousin.
D'accord.
En fait, tu vois, il n'y avait pas d'autres possibilités.
Ça peut donc, être oncle ou machin.
Voilà.
OK.
Donc, lui, je savais que c'était mon cousin et du coup, on s'est rencontrés.
Oui.
Très, très gentil. Il a voulu tout de suite m'aider à essayer de trouver la vérité. Il m'a dit que son père était en Martinique. Donc, si j'avais besoin, je pouvais aller chez son père. Je me dis, mais il est trop gentil. Trop gentil.
Et est-ce que tu trouvais une ressemblance physique avec lui?
Un petit peu. Après, c'est plus éloigné. Donc, c'était un peu moins évident. Mais en tout cas, moi, je prends, de toute façon.
Ouais,
c'est toujours mieux que rien.
Ouais, bien sûr.
Et vraiment hyper cool. Donc j'ai vraiment, vraiment kiffé. Et du coup, après, j'ai eu d'autres expériences. Avant de, du coup, creuser le côté de la fille qui me ressemblait vraiment, j'ai contacté d'autres personnes. Et d'ailleurs, je suis tombée sur... sur un mec un peu bizarre, qui était très investi dans mon histoire.
D'accord.
Un peu révolté, en fait.
Okay.
Parce qu'en fait, il prenait tout personnellement.
Un cousin ?
Oui, c'était un cousin, mais je pense plus du côté de mon père, pour le coup.
D'accord.
Et lui, pour le coup, j'ai l'impression que c'était très personnel, parce qu'il avait la sensation qu'on lui avait caché quelque chose à lui, tu vois.
Ah oui, d'accord. Et ça s'entend aussi, ça peut aussi s'entendre un petit peu, mais bon, c'est pas le sujet premier, quoi.
Oui, mais il était assez spécial. Hein. Ouais. Honnêtement, ça l'a pas du tout fait, parce que moi, je lui ai expliqué que ma démarche, elle était très, très dans la bienveillance. Mm. J'ai pas envie de niquer la vie de qui que ce soit.
Ouais.
Je veux juste du positif. Enfin, si t'es cool, on se rencontre, et puis on peut construire quelque chose, tu vois, vaut mieux tard que jamais. Mm. Il commençait à me dire des choses du genre... moi, je vais forcer mon père à faire un test ADN, ce genre de choses. Moi, ça m'a un peu trigger. Je me suis dit, il ne va pas bien, tu vois.
Ouais, ouais.
Donc lui, j'ai un peu laissé tomber.
Ouais.
Et du coup, le temps passe. Et du coup, c'était, je crois, au mois de... je crois, fin août. Il y a ma copine qui me dit, non, mais c'est quand que tu vas la contacter?
Bon, cette fameuse fille qui te ressemble.
Ouais. Donc je vais l'appeler Kelly, c'est son prénom. C'est bon, tu la contactes, mais t'as rien à perdre, en fait. Et donc, le temps avait passé, ça faisait 8 mois, je crois, que bon, j'avais vu sa photo sur Facebook et tout. Donc bon, je me suis dit, je vais le faire. J'envoie un message et je me dis, de toute façon, son compte, il est inactif depuis 2017, son compte Facebook. Donc je pense qu'il y a zéro chance pour qu'elle me réponde. Mais au moins, je l'aurais fait, tu vois. J'ai pas envie d'avoir de regrets.
Et tu lui dis quoi, dans ce message?
Je lui dis, écoute... Écoute, j'ai fait un test et en fait j'ai fait quelques recherches parce que elle j'ai pas matché avec elle.
C'est grâce à ta copine.
C'est moi qui ai trouvé son profil pour le coup, c'est pas ma copine. Mais en fait elle avait le nom qui était ressorti sur le site, tu parce que c'est des grandes familles.
Ouais.
Et du coup son nom était ressorti et du coup j'en ai déduit qu'elle appartenait à cette famille-là et voilà. Et du coup, je lui ai dit, écoute, j'ai fait un test. Je trouve qu'on a beaucoup de ressemblances. Est-ce que ça te dit qu'on discute, tout ça? Enfin, je suis née sous X, hein, je raconte un peu ma vie. Et j'envoie des photos.
Des photos de toi?
Ouais.
OK.
Bon, après, ma copine avait créé un compte avec ma tête, plein d'infos sur moi. Donc voilà, elle aurait pu fouiller et voilà. Et du coup, une semaine plus tard, je rentre chez moi et... je suis grave fatiguée du taf, tu vois, vraiment flemme, j'avais juste envie de dormir. Et je rentre chez moi, et je vais dans la salle de bain, et il y a ma copine qui me dit « Oh, mais toi, quand tu rentres, il y a que des bonnes nouvelles. » Et je lui dis « Mais de quoi tu me parles, tu vois ?» Et elle me dit « Mais Kelly, elle vient de répondre, tu vois ?» Une semaine plus tard, moi, je ne lui croyais plus, hein, voilà. Et, Et du coup, je lui dis, non, mais t'es sérieuse et tout. Et elle me dit, réponds encore et réponds encore. Et du coup, je regarde les messages. Et elle me dit, on m'a mis au courant de l'existence. Enfin, en gros, je suis au courant que j'ai un petit frère ou une petite sœur qui a été adoptée, mis à l'adoption. C'est ma grand-mère qui me l'a dit. Donc, je ne suis pas trop étonnée de recevoir un message de toi. Et c'est vrai qu'il y a une ressemblance. Et direct après, elle m'appelle. Voilà, m'appelle sur Incroyable. Facebook. Et du coup, bah, j'ai connu toute la vérité à partir de là. Bah,
ta sœur, du coup.
Oui. C'est ta sœur.
Ma demi-sœur, oui.
Ta demi-sœur.
Oui, du coup, on a parlé. Et c'était trop bizarre, en fait. Je ne pourrais pas vous expliquer parce que j'ai encore du mal à le process actuellement. Parce que quand on a grandi 27 ans, en étant fille unique, se prendre dans, on va dire, dans la gueule que, bah, du coup, j'ai... Un petit spoiler, j'ai trois sœurs, enfin trois demi-sœurs.
Trois demi-sœurs, mais qui sont toutes de la même maman ?
Oui.
Okay.
Et bah c'est trop bizarre, en fait.
C'est là, t'arrives avec des infos. J'imagine en plus que quand la nana de la CNAOP là, t'as dit, il faut imaginer tous les scénarios, t'avais pas du tout imaginé celui-là.
Ah, franchement, là, non. Ouais. Non. Je m'imaginais plein de choses, mais ce que j'ai appris, c'était juste... incroyable, en fait. Donc, j'ai discuté avec cette fille-là un tout petit peu. Et ensuite, elle m'a dit, il faut qu'on crée un groupe, en fait. Et elle l'a appelé Sisters, du coup, le groupe. Et du coup, trop bizarre. Voilà.
Oui, ça fait bizarre parce que là, t'as l'impression que t'appartiens à une famille, à un clan, alors que c'est un...
Et en fait, c'est quelque chose... Je me suis toujours dit, oui, je retrouverai ma famille biologique. Et là, de le vivre, c'est le rêve et la réalité, tu vois. Ouais. Et c'est juste incroyable parce que je me serais jamais douté que ça se serait arrivé, quoi. Donc du coup, elle a créé le groupe. Et du coup,
en fait,
elles étaient... Oui. Elles étaient très... Bon, en fait, c'était ma grand-mère, du coup, leur grand-mère, qui leur avait révélé qu'il y avait, du coup, une petite sœur ou un petit frère qui était né sous X et qui avait été adopté. Donc, du coup, elles étaient ouvertes, mais elles avaient un peu le doute. Voilà, ce qui est normal, hein, parce que j'arrive comme ça, je dis que je suis ta demi-sœur. Enfin, c'est un peu... voilà.
Bah, bien sûr.
Donc, du coup, elles ont appelé direct ma grand-mère.
OK.
Et ensuite, donc, ma grand-mère a demandé certaines choses. Donc, ma date de naissance, où j'étais née. Et
pour
aussi, j'ai envoyé...
Que c'était toi.
J'ai envoyé aussi des captures d'écran du site avec mes résultats. Et du coup, ma grand-mère a dit, bah oui, c'est elle. Et ensuite, du coup, j'ai une de mes sœurs qui parle encore avec ma mère, donc la seule, qui a demandé à ma mère. Et donc, ma mère a confirmé que c'était bien moi.
Wow.
Et du coup...
Ça fait quoi d'apprendre tout ça ?
Bah, ça fait... Enfin, c'est vraiment un coup de massue, en fait. Parce que c'est pas... J'ai pas appris que ça, tu vois. J'ai appris des détails sur tout ce qui s'est passé, bah, que j'ignorais. Donc, pour la petite histoire... Donc, moi, je suis la troisième.
D'accord.
Voilà. Je suis la seule qui a été mise à l'adoption. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère était très fêtarde. Elle était jeune, je crois qu'elle avait 17 ans, un truc comme ça, quand elle a eu la première. Et du coup, voilà, elle est tombée enceinte. Donc voilà, pas de souci. Ma grand-mère lui dit, bah, y a pas de souci, on va te nourrir, te loger, pas de problème. Tu pourras avoir ton enfant dans les meilleures conditions. Et donc, elle accouche, donc elle reste chez ma grand-mère. Et un jour, vous allez peut-être rire, mais c'est vraiment cliché, elle est partie chercher des cigarettes.
Putain, mais c'est clair que c'est le cliché. Tu sais, souvent, il y a un peu cette blague des...
Souvent, c'est le père.
C'est le père, en fait, exactement. Souvent, il y a un peu ce cliché de « Oh ouais, je pars acheter des clopes », et en fait, le mec ne revient jamais.
Ah, oui, c'est ça. Ouais, je ne l'ai pas vu venir, pardon.
Ouais, ou
je me suis dit
«
Oui, elle va chercher des clopes, ouais, j'ai pas eu le truc. »
Les clopes ou le pain, et en général, c'est le daron, tu vois.
Oui, oui, et il ne revient jamais, ouais.
Exactement. Et là, elle est bien dans le cliché.
Exactement.
Ouais.
Donc, elle est partie, mais elle est revenue. C'est une bonne nouvelle. Elle est revenue quand elle était à nouveau enceinte. Voilà. Elle a accouché de ma plus grande sœur. Là, elle est enceinte de ma sœur, celle que j'ai retrouvée, du coup, qui m'a appelée la première fois, donc Kelly. Et donc, elle aimait toujours autant faire la fête, elle aimait sortir. Et du coup, elle a accouché dans un bar. Voilà, super. Wow.
De ta sœur.
Ma grande sœur, celle qui est juste...
D'accord.
Née un an avant moi, du coup.
Incroyable.
Et ouais, du coup, elle accouche dans un bar. Et du coup, pour une petite mise en contexte, ma grand-mère travaillait à l'hôpital, du coup, où à chaque fois elle a accouché, donc ma ville de naissance. Et donc à chaque fois, elle avait honte, en fait, parce que bah, sa fille qui accouche dans un bar, bon, c'est un peu moyen. Et du coup, voilà, elle accouche, elle reste un petit peu, elle repart, encore une fois. Donc du coup, c'est ma grand-mère qui a élevé mes deux grandes sœurs.
Ok. En Martinique ?
Non, là, elle est dans l'Oise.
Voilà. D'accord.
Elle est dans l'Oise. Okay. Et du coup, ensuite, un an plus tard, enfin un petit peu moins, mais en tout cas, elle revient. Elle est enceinte de moi. Je crois qu'elle ne voit pas trop ma grand-mère à l'époque. Hein. Mais en tout cas, elle accouche de moi, toujours dans ce même hôpital. Et du coup, les sages-femmes qui ont l'habitude, qui savent, que ma grand-mère élève actuellement les deux enfants de sa fille, bah, viennent lui demander, en fait, du coup, est-ce que tu vas t'occuper ?
Est-ce que t'es chaude, quoi ?
Voilà, de la troisième. Et du coup, ma grand-mère a dit non, parce qu'en fait, elle ne savait pas qu'elle allait jamais me revoir, tu vois. Elle a dit... Et du coup, avec le recul, quand j'ai su ça, je me suis dit, en fait, j'étais à un oui d'avoir une vie, mais totalement différente. Si ma grand-mère avait dit oui, j'aurais pas du tout eu la même vie. Donc, c'est incroyable de dire
c'est
ça.
Juste,
Et du coup, en fait, elle savait pas du tout que j'allais être mise à l'adoption. Et en plus, être née sous X, c'est vraiment, tu coupes tous les liens.
Oui, c'est donc, ça. C'est que normalement, quand tu nais sous X, tu me dis si je me trompe, mais tu n'as aucune info de rien parce que la mère, la femme décide de ne donner aucune info d'elle, quoi.
Exactement, ouais.
Donc, en général, c'est toujours très compliqué pour les enfants qui décident de retrouver leurs parents biologiques.
En fait, les parents sont très protégés en France, donc c'est bien. Mais après, les enfants, nous, on a quand même, bah, grâce à la CNAOP, la possibilité... Bon, moi, ça s'est mal passé, au final. Mais on a une possibilité de recours pour bah, les trouver, nos parents. Donc, c'est quand même assez juste, on va dire. Et du coup, oui, ma grand-mère, moi, elle m'a dit, parce que du coup, je lui ai parlé, elle m'a dit, moi, si j'avais su, je t'aurais pris. Mais cette dame-là, elle avait une quarantaine d'années, elle travaillait, elle était infirmière, elle avait déjà deux enfants en bas âge à s'occuper.
Ta grand-mère,
oui. Oui. Et moi, aujourd'hui, je suis contente. C'est con, mais d'avoir été abandonnée, parce que bah, déjà, ça lui aurait fait plus de mal à elle, enfin, ça aurait été hyper dur. Et en fait, je me dis, cette vie. Enfin, je pense que j'ai eu une meilleure vie, en fait, en ayant été abandonnée. Donc, c'est bizarre, mais c'est un peu le cheminement, la réflexion que j'ai eue. Et du coup, voilà. Et donc, pour finir, donc, j'ai une petite sœur. J'ai une petite sœur et elle, donc ma mère est toujours avec son père. Voilà. Donc, elle, c'est la seule qui a grandi avec ma mère biologique. Et ouais, donc j'ai appris plein de choses sur ma mère qui font que, bah, encore une fois, bah, je suis contente de ne pas l'avoir côtoyée plus que ça parce que, bah, en fait, quand tu... par exemple, quand tu vas voir la psychologue, tu sais, quand j'ai ouvert mon dossier, tu réfléchis à des choses. Et souvent, quand on est abandonné, on va se dire, bah, si je retrouve ma mère, j'espère qu'elle aura évolué.
Eh oui, bah oui, bien sûr.
Par exemple, on peut se dire, ah bah, peut-être qu'elle sera millionnaire, ça te rencontre, trop cool.
Non, mais oui, qu'elle ait évolué, qu'elle ait changé un peu de...
Ouais, même humainement, quoi. Et vraiment, mais c'est une catastrophe, quoi. Par exemple, moi, j'ai appris que déjà, elle avait volé de l'argent à son mari. Voilà, avec qui elle est toujours, donc le père de ma petite sœur. Donc elle lui volait de l'argent et ma petite sœur s'en est rendue compte. Tu vois, donc c'était l'argent d'un héritage. Donc ma sœur, vu qu'elle s'en est rendue compte, elle a pris l'argent. Elle a dit à son père, bah, c'est bizarre ce qui se passe, donne-moi l'argent et si t'as besoin, tu me dis, tu vois. Et en fait, ma mère a essayé, en gros, de craquer le compte de ma petite sœur pour récupérer les thunes.
Ouais.
Parce qu'en parallèle, elle parle à une femme sur Facebook. Moi, je pense qu'il y a un côté, je vais pas dire lesbienne qui s'assume pas, tu vois. Mais en tout cas, je pense qu'elle est intéressée par les filles, parce que clairement, ça fait des années qu'elle parle.
Ta mère ?
Oui.
D'accord.
Ouais. Et parce qu'elle parle à cette femme, cette fille depuis des années. Et moi, je pense que bah, c'est une arnaque, quoi, parce que clairement, la personne lui
qu'elle
donne
est tombée amoureuse
des thunes.
D'une paire. Oui, d'accord.
Okay. Ouais, parce qu'elle donne des thunes à cette personne-là,
ouais,
quoi.
Ouais. Ouais, ouais.
Et du coup, voilà, donc plein de trucs bizarres. Elle a des tatouages et du coup, on a enquêté, tu vois, parce que j'ai vu des photos de ma mère et
oui.
Elle a des tatouages et en fait, on s'est rendu compte que c'était parce que ma mère est très geek comme moi, donc c'est un peu marrant et du coup, elle a des tatouages de Orange is the New Black.
de la même personne. Comment elle s'appelle cette personne dans la série ?
C'est Piper.
Piper, qui est, en fait, elle a reproduit des tatouages de Piper.
Exactement, elle a reproduit les tatouages. Donc en fait, j'ai l'impression qu'elle a elle a écrit les initiales, enfin, elle a tatoué les initiales de l'actrice sur son corps. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment un côté, elle s'assume pas.
Ouais.
Et c'est très, enfin, c'est très immature, quoi. Enfin, moi, je suis vraiment, je m'attendais pas à ça.
Quoi, mais... Ouais.
Je m'attendais pas à ça. Et vraiment, bah, du coup, elle a jamais élevé mes grandes sœurs. Elle est très, très toxique, en fait. Très toxique.
Est-ce que t'as eu l'occasion d'avoir un échange avec ta mère biologique?
Pas du tout. Pas encore.
Et tu désires en avoir un?
Je réfléchis encore.
Ouais, il faut prendre le temps. Toi, t'as besoin de temps.
Exactement.
Il faut prendre le temps. Et qu'en est-il du père?
Le père n'est toujours pas connu à ce jour, donc s'il me regarde, voilà, petite annonce. Mais non, en fait, via l'intermédiaire de ma petite sœur, ma petite sœur a essayé de poser des questions à ma mère sur le père, parce que ça irait plus vite, quoi, si elle pouvait se rappeler. Mais je pense qu'elle a eu énormément d'hommes dans sa vie et qu'elle ne se rappelle pas trop. Donc, je crois qu'elle a donné une description. Donc, bon, je savais qu'il était grand, blond. Blanc. Maintenant, je sais qu'il a des lunettes. Voilà.
Okay. Ouais,
donc,
bon.
J'avance un petit peu. Quoi.
Ouais. Okay.
Mais ouais, j'espère que... Parce que du coup, ma copine a passé une annonce sur le Facebook. On essaye un petit peu de...
Ouais, t'es toujours en recherche d'en apprendre un peu plus. Mais c'est hyper intéressant. Et je trouve que c'est même courageux. Je ne sais pas si c'est le terme, mais il y a beaucoup, j'ai la sensation, parce que moi, j'ai pas mal d'amis adoptés. Enfin, pas mal, j'en ai quelques-unes d'amis adoptés autour de moi. Et en fait, elles ont toutes voulu, à un moment, découvrir. Et puis, ça ne s'est pas fait, pour plein de raisons qui leur sont propres. Quoi. Mais et je trouve que de ne pas avoir lâché... Et au final, quand tu dis « Oh, il y a eu du temps qui s'est passé », au final, ça va relativement vite. Hein. Regarde, c'était en janvier, là, on est en octobre.
Test ADN, c'était tellement fort, en fait.
Ouais, mais c'est ça.
Ça a débloqué tellement de portes.
Ça a été déclencheur d'un truc. Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'entendre ce genre d'histoire comme ça?
Ce que je trouve dingue, c'est la différence de traitement entre les enfants. Enfin, tu vois, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, mais la petite qui a grandi avec sa mère, mais...
Et qui, c'est la seule qui connaît son père, du coup, parce que les deux plus grandes ne connaissent pas. Voilà.
Et, et puis la grand-mère au milieu de tout, enfin, c'est une histoire de dingue, ouais.
Et ma grand-mère, du coup, se sentait hyper coupable parce qu'elle ne savait pas où j'étais. Elle avait peur que je finisse parce que, du coup, en soi, quand on est né sous X, on est une pupille de l'État, donc on va à la DAS, en fait, enfin, à l'ASE, du coup, maintenant. Et elle avait peur que j'aille de foyer en foyer et que je sois vraiment pas bien, parce que bon, souvent, ça se passe mal. Et elle se sentait vraiment coupable. Moi, je l'ai eu au téléphone et vraiment, c'était vraiment de la culpabilité. Moi, je lui ai dit, t'inquiète, franchement, moi, tout va bien, tu vois. Et je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait se passer.
Et oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas la meilleure chose qui pouvait t'arriver, vu le profil qu'a l'air d'avoir ta mère, quoi.
Clairement.
Et comme tu dis, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, de finalement... Il a suffi d'un nom pour que ta vie soit différente. Enfin, je veux dire une phrase vraiment bateau, mais parfois, il suffit de si peu de choses pour qu'il y ait un changement énorme qui opère. Donc, non, mais c'est fou, je pense qu'on pourrait faire vraiment un épisode complet pour parler de ça. Ouais. Mais nous allons gentiment passer au prochain thème qui s'appelle l'intimité. Il y a un jingle, je ne sais pas si nous, on va l'entendre, mais je vais le dire, j'ai toujours rêvé de faire ça. Jingle
podcast.
C'est un jeu qui s'appelle l'intimité. On a bossé le nom, puisqu'on va parler d'intimité avec un dé.
Wow.
C'est quand même merveilleux.
C'est pas mal.
Donc, vous avez toutes les deux un dé.
Okay.
Avec sur chaque face, il y a des couleurs. Et chaque couleur correspond à une émotion. Et chaque émotion est reliée à une question intime. Je te propose de lancer l'intimité pour qu'on découvre ensemble ta couleur et ta question.
Donc, bleu.
Le bleu. On a des questions très profondes et aussi très légères. Là, c'est une question très légère.
Okay.
Quelle star adorais-tu quand tu étais ado?
Ron Carter. Ah, ado?
Ado. C'est qui, Ron Carter?
Ron Carter. I want candy. I want candy. Ce qui est marrant, c'est que mon fils ressemble énormément à Ron Carter aujourd'hui. Wow. Mon mec lui ressemblait aussi petit, je ne le savais pas.
Faut que je vois une photo de cette personne, parce que là,
il a une coupe au bol blonde. Okay. C'est le frère de Nick Carter des Backstreet Boys.
D'accord, ça y est, je l'ai.
Voilà.
Ok.
Wow. J'étais fan des Hanson aussi, mais donc ça, plutôt petite.
Ouais.
Et ensuite, ado, moi, j'étais à fond sur Mary-Kate et Ashley Olsen, pas toi? Ah, moi,
j'étais pas... Non, les ballons. Si, c'est vrai, c'est vrai.
Moi, j'étais à fond
Mais moi, je pensais que t'allais dire une star, genre une chanteuse ou un chanteur, tu vois.
Non, mais après, comme tout le monde, Christina Aguilera, Britney Spears, tu vois, la base, quoi.
Jenny in the Bottle, quoi, bien sûr.
Voilà, Jenny in the Bottle, tout ça, tout ça.
Mais moi, j'étais Ashley, quoi.
Ouais, Avril Lavigne aussi, j'ai eu une phase. T'as eu une phase skateuse aussi, toi ?
J'ai eu ma phase skateuse, effectivement. Non, ça, comme ça.
Exact.
Quand j'étais au collège, en sixième, surtout, genre, je faisais pas de skate.
Ouais.
Parce que vraiment, la flemme de me casser la gueule. Mais je m'habillais en skateuse avec des baggies et des trucs Carhartt et tout ça. Et je faisais ça tout le temps. Et je faisais genre, j'écoutais du Slipknot, alors qu'en vrai, j'écoutais Laurie et Alizée.
Ouais. Ah,
mais ouais, j'ai eu cette petite phase-là.
Bon, voilà. Sum 41, tout ça, quoi.
Ouais, ouais, okay.
Voilà, Good Charlotte, enfin, tu vois.
Ah, ça, je connais pas.
Ouais, bon.
Ça, je connais pas.
C'était,
ok.
C'était les... Voilà.
Alors, ok, très bien. Est-ce que tu peux lancer le petit dé? C'est un jaune. Le jaune. Ah, c'est une bonne question. Quelle est ta définition du bonheur ?
Tu poses des questions simples.
Ah, là, c'est pas si simple, là.
Ouais. Déjà, pour
c'est
moi...
C'est dur comme question, même.
C'est dur comme question.
Ouais.
Pour moi, le bonheur, c'est pas quelque chose qui est fixe. C'est plusieurs moments de bonheur, tu vois. Parfois, tu es dans une phase plutôt positive et tu peux te dire, bah, je connais le bonheur, tu vois. Après, pour moi, enfin, pour développer un petit peu par rapport à mon sujet, j'ai une grosse blessure de l'abandon, vu que j'ai été abandonnée. Donc, pour moi, le bonheur, c'est juste être avec des personnes que j'aime, tu vois. Avoir une situation stable où je suis en sécurité. Et juste, bah, pour l'instant, du coup, être avec ma copine, mes animaux, ressentir en fait cet amour. En fait, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment. Bah, l'amour, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi, quoi. Donc, pour moi, si s'il y a de l'amour, s'il y a de la stabilité, pour moi, ouais, je peux dire que c'est ça le bonheur. Voilà.
Et toi, je suis curieuse.
Le bonheur, moi, le premier truc qui me vient quand je pense au bonheur, c'est la notion du bonheur à condition. Tu sais, je serai heureuse quand.
Ah oui.
Tout ça. Et moi, je trouvais ça fascinant, cette notion-là, enfin, quand je l'ai apprise et que je me suis rendu compte que, en fait, bon, non seulement ça ramène à la loi de l'attraction, c'est-à-dire, tu vois, vibrer l'abondance, par exemple, ce qui est hyper dur quand tu es dans une notion de manque, mais tu vois, essayer de se mettre dans cette notion de joie, d'abondance, de gratitude pour attirer ça, quoi. Et sortir de « je serai heureuse quand ?» puisque quand je serai heureuse quand j'aurai ma maison, je serai heureuse quand j'aurai un enfant, etc. En fait, c'est mettre le pouvoir en dehors de soi. Et quand tu as ta maison, ton projet, le boulot, l'enfant, etc., bah, en fait, il y a souvent ce qui se passe, c'est « ah bah non, mais en fait, je suis pas heureuse. » Enfin, tu vois, cette espèce de désillusion. Et hop, to the next, enfin, tu vois.
Donc, tu veux dire, en gros, pour toi... d'être tout le temps dans ce truc de projection, ça va dans le sens inverse du bonheur. De tout le temps projeter de quand je vais avoir ça, je sens que j'irai bien quand j'aurai ça.
Ouais, enfin c'est se mettre dans l'échec en fait, parce que c'est avoir des attentes.
Des attentes énormes qui en général ne sont pas comme ce que tu idéalises.
Qui vont pas remplir en fait ce que tu penses que ça va remplir. Quoi. Enfin c'est mettre ton bonheur ou ta responsabilité à l'extérieur, quoi, à l'extérieur de toi. Et ça, en général, pour n'importe quoi, ça fait pas bon ménage, quoi. Donc, je dirais que c'est plus nourrir l'intérieur. Et je dirais respecter ses besoins.
Ouais, c'est ça, en fait. Ouais.
Tu vois, respecter ses besoins, mettre des limites et nourrir sa joie. Tu vois, moi, je dirais que c'est ces trois ponts-là, tu vois.
J'aurais dit, pas ces termes-là, mais j'aurais dit ça, en fait. Je pense que c'est vraiment être à l'écoute de ses besoins. On les connaît, en fait. On les connaît tous, on n'a pas besoin de faire une analyse en soi juste pour ça. Mais c'est juste être à l'écoute de nos besoins, de ses envies. C'est pas si évident, mais une fois que t'abordes et que tu touches un peu ça, je trouve qu'il y a un truc de... lâcher prise, ce mot, il est très employé et tout, machin, mais il y a quand même, je trouve, un truc tu vois, d'un poids en moins, quoi. Voilà, mais ok, ça me parle beaucoup. On va aborder un thème qui s'appelle transmission et éducation. Donc, Louis, t'es maman depuis bientôt 2 ans, ton fils, il a 20 mois, c'est ça? Est-ce que ça a changé quelque chose sur la façon dont tu perçois tes parents aujourd'hui d'être maman?
Énormément.
Évidemment, merci beaucoup d'avoir regardé ce live.
Voilà, et c'est la fin de cet épisode. Énormément, surtout énorme respect pour ma mère qui nous a éduqués, qui nous a élevés, en tout cas toute seule. J'entends mon père travailler quand même beaucoup à cette époque, les années 80, Canal et tout, c'était quand même... il n'était pas tous les soirs à 19h en train de nous faire une tartine de Kiri, hein, qu'on soit bien clair. Donc ma sœur et moi, ouais, on est en plus 2 ans d'écart. Donc moi, je me dis, ça veut dire, c'est comme si j'allais accoucher genre en février, quoi. Donc, je suis encore en train d'allaiter. Enfin, je me sens limite en fin de postpartum. Donc voilà, respect. Et sans aide, sans nounou, sans crèche.
Eh ouais.
Nous, on a nounou, crèche. Moi, mon mec, il s'est arrêté pendant 18 mois.
Enfin, c'est vrai.
Ouais,
ça.
Ouais, moi, je suis en...
T'es royal au bar, comme
moi,
on dit.
Moi, je suis, ouais, nickel, quoi. Donc, et encore, j'ai trouvé ça, tu vois, j'ose dire que j'ai quand même trouvé, tu vois, ça à des moments difficiles, tu vois, de continuer de bosser.
Bien sûr, ça n'empêche pas. Hein.
Voilà.
Ouais.
Mais on a eu quand même de l'aide tard, on a été quand même tous les deux à temps plein pendant un moment. Mais du coup, ouais, énorme respect, je pense que c'était une autre génération et que, comme peut-être le disent tes parents, peut-être qu'eux, ils trouvent qu'on se plaint beaucoup, quoi, et qu'on a peut-être beaucoup plus d'aide, etc. Mais voilà, ma mère travaillait pas, nous on travaille, enfin bref, tout est différent. Mais en tout cas, ouais, énorme respect pour elle de nous avoir élevés, toutes les deux, à 2 ans d'écart.
Justement, pour toi maintenant, d'être devenue maman,
ouais,
t'amènes beaucoup plus de respect, de respect, je dis pas que tu les respectais pas, hein,
oui, oui.
Mais t'amènes beaucoup plus de respect. Il n'y a pas un autre penchant où tu t'es dit, ah tiens, c'est marrant, moi je suis devenue maman et je vois ce que mes parents ont pu faire avec moi, là je suis pas d'accord, ou tu vois, ou...
Mais ça, je l'ai tellement fait pendant ma vingtaine.
Bon d'accord, ok, parce que moi j'en suis là, tu vois.
Ouais,
donc,
mais moi je l'ai tué le sujet, tu vois, okay. Je l'ai décortiqué, essoré, tiré en bas, en haut, à droite, à gauche, tout ce qu'on pouvait, tu vois, tout ce que je pouvais penser ou dire, ou tu vois. Donc là, c'était plus, c'était pas, ah, ok, ils ont fait comme ça, c'était plus, voilà, surtout par rapport à ma mère et à l'équilibre de la place, tu vois, dans la famille, quoi, tu vois. Moi, je pense qu'on est un couple, même aujourd'hui, avec Julien, assez atypique, dans le sens où c'est plutôt lui, enfin, là, il rebosse et il bosse comme un ouf, donc là, on est passé dans autre chose, mais... à l'époque, c'était plutôt lui qui avait plus de charges ménagères que moi. Enfin, tu vois, c'était moi qui bossais plus que lui. C'était moi qui gagnais plus d'argent. Enfin, on était dans quelque chose encore aujourd'hui qui est assez rare. Enfin, un mec qui s'arrête 18 mois de bosser, un père qui...
Mais
c'est aussi une chance parce qu'on a pu le faire, parce que j'ai pu bosser pour nous. Mais voilà, tout change et tout est différent aujourd'hui, quoi.
Justement, quel type d'éducation vous avez choisi pour votre fils ? Est-ce que vous avez choisi ? Est-ce que ça s'est fait naturellement ? Est-ce que...
Un peu des deux. Moi, je pense qu'il y a évidemment plein de choses naturelles. Et on en parlait justement juste avant. Et moi, je suis assez passionnée de ça. Et je pense que toi aussi, tout ce qui est parentalité bienveillante et positive, ça, moi, je l'ai connu grâce à ma sœur. Enfin, ce courant-là, quoi. Et du coup, j'ai beaucoup appris de ma sœur, qui est maman aussi, et je l'ai beaucoup vue faire. Et justement, on en parlait juste avant l'épisode, mais il y a plein de trucs que je teste en ce moment avec mon fils, qui a 20 mois et qui commence à dire « Non, j'ai pas envie de changer ma couche, j'ai pas envie de mettre mes chaussures. » Enfin bon, un peu non à tout et rien, quoi. Et du coup, on se partageait des tips, de lui donner le choix. Quand il veut pas faire quelque chose, lui dire « Bon, voilà, il veut pas changer sa couche, lui proposer, est-ce que tu veux que ce soit maman ou papa qui change la couche ?» Bon, voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais qui nous aident bien. En tout cas, pour l'instant, ça
fonctionne bien.
Ça fonctionne bien. Après, on n'est pas au bout de nos peines, mais ça, en tout cas, c'est un nouveau concept que je connaissais pas du tout avant et qui est, j'imagine, quand même relativement nouveau. Enfin, moi, j'ai jamais entendu ma mère me parler d'éducation bienveillante ou positive. J'ai jamais entendu ma mère me parler de violence ordinaire, éducative. Oui. Enfin, tu vois, tous ces termes-là.
Oui, c'est parce qu'on libère vachement plus la parole maintenant et qu'on met. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais moi, je vois que nous, on est relou et on est réglé avec le sommeil et machin. Ouais. Et je vois ma mère, souvent, elle me le dit pas trop, mais je pense qu'elle se dit, ils sont too much et tout. Et toi, ta mère, elle
ma
te
mère,
le dit.
Pareil.
Mais en fait, ça s'entend. Enfin, tu vois,
c'est
juste qu'eux, ils ont pas grandi là-dedans. Par exemple, un exemple tout bête, mon fils va pleurer parce que il veut prendre cette bougie et que c'est non parce qu'elle est allumée. S'il pleure, moi, typiquement, je vais dire, chérie, je comprends. Tu sais, je vais lui parler, je comprends et je le laisse pleurer. Tu vois, je lui dis, mais vas-y, chérie, pleure, tu es en colère. Et ma mère, tout de suite, elle va dire, allez, chérie, allez, vas-y, on s'amuse. Alors que moi, j'ai envie de lui dire, mais non, mais laisse-le exprimer son émotion. Je pense qu'elle se dit, waouh, vraiment, elle est too much.
Ouais.
Je pense vraiment qu'il y a un peu ce truc-là, mais je dis pas que ce qu'on fait est mieux que ce que nos parents ont fait, mais je trouve que ce truc de parentalité positive, c'est un peu hors sujet de nos parents, enfin, quoique, non, mais j'ai la sensation qu'on met vachement plus les émotions de l'enfant, tu vois, au centre des choses, quoi. Et je trouve que c'est hyper intéressant et qu'on peut se planter. Mais je me demande si tu es culpabilisante avec toi-même quand tu... Parce que moi, je sais que je peux être culpabilisante sur des trucs, enfin, me culpabiliser, tu vois, de me dire, putain, j'ai pas fait ça comme ça, ou j'ai pas fait assez ça, ou pas bien ça, ou alors t'es assez douce dans ton regard.
Ouais, je pense que je suis assez douce. Les trucs sur lesquels je suis intransigeante, et là, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de choix, et on se le disait tout à l'heure, c'est quand c'est dangereux. Et là, s'il est debout, en train de à moitié tomber à travers la vitre ou je ne sais pas quoi, non, là, tu vois, je vais le dire une fois, je vais le dire deux fois, je vais hausser la voix, enfin, tu vois, je peux crier, enfin, tu vois, crier, en tout cas, parler fort et de manière très ferme. Et non, là, il n'y a pas de négociation possible, c'est pour sa sécurité, et non, c'est non. Tu vois, moi, j'aime bien quand tu dis que justement parfois vous disiez bah non c'est non, tu vois, c'est aussi ça le cadre, et le cadre est libérateur pour l'enfant, enfin clairement. Mais pour reprendre ce que tu disais, je sais plus ce que tu disais mais c'était intéressant. Oui, que nos parents étaient plutôt dans la diversion.
Exactement.
Voilà, de l'émotion. C'est-à-dire, ouh là là, une émotion inconfortable, de la tristesse, de la colère, on va divertir.
Complètement.
Alors que non, comment on peut accueillir cette émotion-là, que ce soit en effet de la colère, etc. Oui.
Tu sais, moi, ça m'est arrivé il y a quelques mois maintenant. Mon fils, j'allais dire son prénom, mon fils est tombé. Il est tombé en arrière il y a quelques mois. Et il s'est cogné la tête sur du parquet. Tout de suite, avec mon mec, on est venu, on l'a pris. Je pense que mon fils a pleuré parce qu'il a eu peur, tu vois, il a eu peur, il s'est peut-être un peu fait mal, mais c'était surtout de la peur. Et tout de suite, avec mon mec, on l'a pris, tu vois, on a dit, ça va chérie, ça va, je comprends, t'as eu peur, c'est normal et tout. Mon père, il a fait, oh ça va, mais pas méchamment, mais oh ça va, c'est bon, enfin c'est pas grand-chose. Et j'ai eu envie de lui dire, en fait non, je suis pas d'accord avec ça, tu vois, juste on écoute son émotion, c'est pas parce que, enfin pour lui c'est une grosse émotion, pour nous c'est pas grand-chose, mais juste... On l'écoute, quoi, tu vois, c'est considérer, en fait, les émotions de ton enfant, quoi. Donc, oui, c'est vrai que pour nos parents, je pense qu'on doit être un peu too much sur certains points.
Un truc que je connaissais pas du tout, justement, la contention, enfin, on en parle beaucoup, justement, dans le milieu de la parentalité positive, bienveillante, etc., c'est-à-dire quand il y a une énorme colère ou une crise de décharge, bon, nous, il en est pas encore là, mais ça, j'imagine que ça ne serait pas
déjà fait,
ouais. Et bah, on parle de les contenir aussi pour leur créer, en fait, un boost d'oxytocine, parce que l'oxytocine se crée au contact.
Ah, toi, tu dis oxytocine?
Non, tu dis pas ça.
Oxytocine. Je crois que c'est oxytocine.
Oxytocine, parce qu'il y a deux C. Mais oui, l'oxytocine, en fait, se crée avec le contact et le câlin. Donc, lui laisser, en effet, faire sa décharge, etc., mais être vraiment dans la présence et l'accompagnement et la contention, tu vois, pour pas qu'il se fasse mal s'il est en train de... Bah, tout ça, voilà.
Mais c'est être à l'écoute de nos enfants. Ouais,
mais je veux dire, tout ça, moi, c'est des notions nouvelles pour moi qui ne m'ont pas été transmises du tout par mes parents.
Mais c'est hyper intéressant parce que justement, c'est inventer soi-même l'éducation pour nos enfants. Est-ce que toi, Joséphine, justement, donc tu n'as pas d'enfant, est-ce que tu aimerais en avoir? Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait d'être parent?
C'est une question que je me pose. À l'heure actuelle, pour l'instant, ce serait plus non. Parce que moi, j'ai vraiment envie de mettre ma carrière, on va dire, en priorité pour l'instant. Puis je trouve un petit peu jeune. Enfin, ça, c'est
opinion personnelle. C'est le regard de chacun, bien sûr.
Mais après, du coup, vu que moi, je suis avec une femme, ce sera déjà un peu plus complexe. Et ce sera vraiment quelque chose qui sera réfléchi. Elle n'est pas trop chaude pour l'instant.
Vas-y, pardon, vas-y.
Non, t'inquiète. Mais c'est plus, en fait, cette histoire d'accouchement, en fait. Elle qui l'angoisse, elle n'a pas envie de vivre ça du tout, et moi non plus. Donc
ok, donc on ne sait pas qui... D'accord, ok. Ça s'entend, qu'on ait peur de l'accouchement, c'est quelque chose. Mais est-ce que justement, par le biais de ton histoire et de ce que tu as vécu, de ce que tu es en train de vivre, t'es un peu plus, oula, je ne suis pas sûre? Ou alors, au contraire, tu te dis, j'ai envie de donner... Enfin, je ne sais pas, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose qui te pousse ou qui te...
Bah, moi, en fait, j'aimerais bien adopter. Voilà. Ouais. C'est parce que vraiment, l'accouchement, pour moi, je pense que... Je me suis dit, à un moment donné, bon, bah, si ma copine ne veut pas, peut-être que... Mais je pense que je ne suis pas... On va dire, pas faite pour ça, en fait.
T'as pas envie, quoi. De vivre ça. Ouais.
Exactement. Mais l'adoption... en fait, moi, j'aimerais bien aussi pas combler ce que mes parents m'ont pas apporté, au final. Parce que, tu vois, vu que j'ai été élevée par des parents blancs, en soi, moi, j'aimerais bien pouvoir adopter un petit enfant qui serait de couleur. Parce que moi, je pourrais comprendre, en fait, aussi ce qu'il a vécu. Donc ça, c'est un truc qui m'intéresserait. Après, bon, à voir avec la personne avec qui je suis, quoi, aussi. Mmh. C'est pas une décision que pour moi, mais ouais, moi, je serais plus pour l'adoption. Mais à voir, pour l'instant.
D'accord. Est-ce que, je vous pose la question, si pour vous, l'école a aussi un rôle à jouer, une responsabilité dans notre éducation, est-ce que c'est un truc qui, selon vous, pose des bases, ou alors l'école, c'est vraiment un truc d'à côté de l'éducation ? C'était clair, ce que je dis ?
Oui.
Ouais, ok.
Moi, je pense que oui, quand même. Je pense qu'il y a d'ailleurs... Bon, il y a trop de parents, je pense, qui se reposent sur l'école parfois pour éduquer leurs enfants. Parce que moi, je suis tombée face à des gens qui, clairement, il y avait un problème d'éducation, quoi. Mais en soi, pour moi, ça pose aussi un cadre, un cadre différent, le cadre du travail. Et je sais que, en soi, moi, je suis tombée sur différents types de profs, différents milieux aussi. Et je pense que tout ça, enfin, si j'avais pas vécu tout ça, en fait, je pourrais pas être la personne que je suis. Enfin, je serais différente, en fait. Et non, je pense que ça forge sur plein de choses. Aussi l'ouverture d'esprit, parce que on rencontre plein de gens qui sont aussi différents de nous. Donc c'est une première ouverture sur le monde. Ça inculque aussi des valeurs, donc le travail, le respect aussi des profs principales, tout ça. Et ouais, pour moi, c'est quand même primordial. Après, on voit aussi émerger, tu sais, l'école à la maison, tout ça. Moi, je suis pas trop... Bon, je pense que dans certaines situations, ça peut être adapté, mais je sais pas. Moi aussi, il y a la socialisation qui est importante.
Je pense que pour le coup, même quand tu fais l'école à la maison, tu peux vachement sociabiliser la plupart
c'est
des
ça,
parents.
Ailleurs.
Je crois,
aussi.
ouais, c'est ça, voilà, qui choisissent...
Moi, c'est ça qui serait le seul frein en soi.
Ouais, bien
mais,
sûr.
Mais voilà, sinon, oui, l'école, important pour l'éducation.
Et toi, t'en penses quoi ?
Moi, je suis révoltée contre l'école.
Oh, moi aussi.
Toi aussi, ouais.
Ouais, je suis en train de lire un bouquin, justement, qui parle de l'éducation. Ben, c'est pareil, j'en parlais sur un live dernièrement. Je suis révoltée contre l'éducation
comment
nationale.
Comment il s'appelle, le bouquin ?
C'est un bouquin de Céline Alvarez. Je ne sais plus comment
qui
il s'appelle.
Ok.
Je ne sais plus. Je te l'enverrai. Mm-hmm. Mais vas-y, explique-moi, parce que j'en parlais l'autre fois et je suis un peu... en colère, en fait, attends, je vais vous expliquer, c'est que moi, ce qui me révolte, j'ai été dans des écoles publiques, privées, pensions, enfin, j'ai fait un peu tout, quoi. Et en fait, je me suis jamais retrouvée, moi, dans le système scolaire. J'étais toujours à côté, je me faisais virer, j'allais beaucoup en perme, j'ai redoublé, enfin, je me retrouvais pas du tout là-dedans. Et en fait, maintenant, je pense en étant maman, parce que je pense que je l'avais pas nommée comme ça avant. Pourtant, mon fils n'a que bientôt 17 mois, donc on est loin du collège et tout, mais j'ai la sensation qu'on ne met pas du tout l'humain au centre, en fait. On apprend, on est dans la compétitivité, on est dans le truc de la glorification, comment on dit déjà, de ce truc de d'être toujours le meilleur, d'avoir des bonnes notes, de ce truc, tu vois, de comparaison. Performance, exactement, et je trouve que ce n'est pas du tout aidant, en fait, tu vois, et que l'humain et l'émotion, les émotions, on n'apprend pas du tout à gérer nos émotions, à parler de nos émotions. Les profs, en fait, ils nous apprennent un cursus parce que pas eux-mêmes, enfin, tu vois. Donc, je trouve que c'est moi, je suis révoltée dans ce sens-là. Je sais pas pourquoi toi, tu es révoltée, mais moi, c'est ça qui me... Et que j'ai envie, c'est une discussion que nous avons avec mon conjoint actuellement, mais j'aimerais plutôt, et lui aussi d'ailleurs, mais le mettre dans une école, pas forcément Montessori, mais dans un truc un peu, tu vois, où l'émotion est au centre, où il apprend des bases, tu vois, du français, de machin, mais... Toi, comment ça va ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu as envie de faire en ce moment ? Enfin, tu vois, par exemple, de faire des stages en troisième et de nous demander ce qu'on veut faire dans la vie, pour moi, c'est lunaire, tu vois. Donc, explique-nous un peu.
Non, mais ça, la même chose. Et puis, gérer un budget, apprendre à faire cuire une tomate, faire pousser un poivron... Enfin, je sais pas, faire ses impôts, par exemple, je sais pas, des trucs qui nous servent,
bon, ça,
en fait, concrètement.
C'est un peu tôt, quand même, au collège.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, concrètement, en fait. Dans la vie, on va devoir faire de l'administratif, devoir, je sais pas, manager une équipe, avoir une intelligence sociale, une intelligence émotionnelle, quelques bases de psycho pour apprendre à se construire. Enfin, en fait, concrètement, se dire, OK, en fait, dans la vie, qu'est-ce qui nous sert ? On doit donc gérer l'argent. Si jamais il y a une crise mondiale, ce serait pas mal de savoir faire pousser 2-3 légumes, histoire d'être un peu indépendant. Émotionnellement,
en fait, des trucs qui servent, quoi. Oui. Pas Louis mes couilles, tu vois, ouais. En 12 millions avant Jésus-Christ.
En fait, je pense que les deux peuvent être intéressants, tu vois.
Oui.
Les deux sont intéressants.
Oui, mais que l'histoire, ce soit une option. Tu vois, moi, l'histoire géo, ça me fait chier, mais ouais, royalement.
Alors que ça a passionné d'autres gens, tu
vois. Exactement, mais que ce soit une option. Par contre, les impôts, ça, c'est pas une option, tu vois. Les taxes, les machins, comprendre un courrier... Enfin, je sais pas. Et puis, encore une fois, oui, comme tu dis, tout ce qui est intelligence émotionnelle, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le soft skills, c'est-à-dire l'apprentissage de l'intelligence émotionnelle et relationnelle dans les grandes écoles. Aujourd'hui, il y a des intervenants qui viennent faire des cours là-dessus aux gens qui sont en cours, enfin, en école de commerce et autres. Génial. Mais venez, on apprend ça plus tôt. Pareil, ouais. L'anglais, on est des grosses brêles en France. Moi, on m'appelle JCVD parce que je n'arrête pas de parler anglais tout le temps. Mais putain, mais on est des grosses. Grosse brêle, quoi. On est merde, quoi. Les Allemands, ils parlent mieux. Enfin, tout le monde parle mieux anglais que nous. Donc, l'anglais, c'est aussi hyper important. Enfin, voilà. Pour moi, il y a quand même vachement de matière qui devrait. Ouais. Et comme tu dis, bon, ça, c'est le quoi, mais aussi dans le comment. Moi, évidemment, et on a très envie de s'orienter vers Montessori et compagnie pour avoir un peu plus de souplesse, ouais. D'écoute et la blessure d'humiliation à l'école, elle est énorme. Quand ils Clairement. Font les notes de la pire à la meilleure.
J'en parlais en live.
C'est une ouais. blessure d'humiliation que terrible. Tout le monde a vécu.
Moi, j'ai des souvenirs de ça. Moi, j'ai de vrais souvenirs de ce
Moi,
truc.
Moi, j'étais pas aussi, tu vois, marginale, entre guillemets, que toi, mais j'étais toujours limite, tu vois. Et c'est... Ouais, je me faisais chier royal. Mais et donc, c'est un problème... oui, enfin, non. Mais... Et puis même, pas d'activité physique. Enfin, tu vois, être le cul... Alors, pas d'activité physique et
La
les
meuf,
devoirs...
Elle est vénère.
Oui, non, mais je suis ultra vénère. Je suis ultra vénère. Et les devoirs au CP, au CE1, enfin, etc., quand ils ont eu le cul sur une chaise toute la journée à apprendre des livres, des machins, alors qu'on pourrait apprendre par les jeux, par etc., et que tu rentres chez toi, et au lieu d'avoir un temps d'intégration...
J'en parlais hier avec mon mec.
Qui est hyper important ouais, en tant qu'un temps d'intégration... Ouais. Tu continues à faire du bourrage de crâne alors qu'il pourrait faire d'autres choses, faire de l'art, jouer, passer du temps avec sa famille. Non, tu lui mets des devoirs. Pour moi, c'est du harcèlement. Pour moi, c'est de la maltraitance. Je suis ultra en colère. J'ai envie de leur enfoncer des fourchettes dans les yeux.
On sent que ça t'anime beaucoup.
Ah ouais, non,
on arrive bientôt à la fin, donc je vais juste prendre un petit peu. Non, mais vraiment, ça aussi, ça pourrait être un sujet à part. On va arriver à la conclusion et j'ai envie de vous poser un peu deux, trois questions si on peut répondre rapidement.
Oui.
Au final, qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'être parent ?
Ce qui est difficile d'être parent aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est qu'on nous demande l'impossible. On dit, alors désolée, je vais encore dire une phrase en anglais, mais « it takes a village to raise a child », ça veut dire...
Il faut un village pour élever un enfant.
Exactement. Ouais. Aujourd'hui, on n'a plus de communauté, on a perdu notre communauté, on est dans une société individualiste où on est tous dans notre merde, avec une charge mentale grosse comme l'Amazon et une to-do list qui ne s'arrête jamais. Et une culpabilité énorme. Donc, en fait, on nous met, la société ou je ne sais qui nous a mis dans une position d'échec où c'est très difficile de performer en tant que femme, au travail, en tant que maîtresse, en tant qu'amante, en tant que machin, en tant que mère, en tant que... Et se diviser en 14 millions de rôles dans la journée, quoi. J'ai pas du tout répondu à la question. Quelle
était
la question ?
Mais la question...
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est difficile d'être parent ? Oui, c'est d'avoir tous ces rôles-là et d'être un peu livré à soi-même, en tout cas dans notre société. Et si t'as pas les moyens, moi je dis toujours, si vous voulez faire des enfants, soit vous avez les grands-parents de la famille autour, soit faut être riche, quoi. Enfin, nous, ça nous coûte une blinde. On habite à Marseille, on a personne. Ouais. Ça nous coûte une blinde.
En fait, ce que je trouve intéressant, et je veux bien avoir aussi ton point de vue, c'est que nous, on donne notre aspect en tant que parents. Et justement, je te rejoins complètement. Est-ce que moi je parle souvent effectivement de l'équilibre à trouver dans tous ces métiers, dans tous ces pans qu'on est de la meuf, l'amante, la chef de projet, la chef d'entreprise. Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs. Et maman, c'est pas évident de trouver cet équilibre là-dedans. Mais par contre, justement, nos parents, qu'est-ce qui est difficile selon toi ? Parce qu'on pourrait aussi en parler, hein, mais selon toi, qu'est-ce qui a été ? Attends, je reprends la question. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'être parent ?
Qu'est-ce qui a été difficile pour tes parents à ton
Merci
avis ?
Merci beaucoup. Ouais.
Je pense qu'ils n'avaient pas de manuel, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de manuel qui existe qui te dit pour être un bon parent, il faut faire ça. Ou alors, bon, il y a des bouquins qui en parlent, bien sûr, mais je pense qu'en fait, ce qui est compliqué, et moi, ce que j'aurais peur de faire, en fait, si je devenais mère, c'est que nous aussi, en fait, on a une vie, et mes parents aussi ont une vie, leur trauma. Et en fait, c'est compliqué d'élever un petit être innocent, de lui inculquer plein de trucs, d'avoir vraiment une responsabilité, la responsabilité d'un autre être humain, sachant qu'on a vécu des choses avant qui n'étaient pas forcément cool. Parce que moi, par exemple, je prends l'exemple de mon père, il a eu une enfance hyper difficile. Et je sais que, du coup, il est trauma, qu'il s'en est jamais remis. Et c'est pour ça, en fait, qu'il fait tout ça. Mmh. Donc, il faut avoir la force, en fait, de régler ses problèmes avant, si possible. Mmh. Et c'est compliqué, en fait. Ça prend du temps. Mmh. Et en plus, quand on fait ça pendant qu'on élève un enfant, bah... C'est compliqué.
Donc, ça rejoint quelque part ce que tu disais un peu de quand on fait un enfant, soit il y a le village qui est là pour nous aider et on le fait en général quand on se sent prêt. Bon, après, parfois, on devient parent parce que on n'a pas pu avorter, parce que machin. Enfin, il y a aussi cette réalité qui existe là. Mais c'est vrai que je pense, moi, je parle en tant que parent, mais aussi en tant qu'enfant. C'est très important de... Et je dis pas que c'est facile, hein, et c'est normal de faire des erreurs, mais de s'impliquer, en fait. Tu vois, de s'impliquer, pas forcément corps et âme, mais de s'impliquer dans son rôle de parent. Mmh. Et justement, je voulais aussi savoir, est-ce que, selon vous, on peut tout leur pardonner ou pas ? Est-ce qu'on peut tout pardonner à nos parents ?
Je peux pas répondre pour la planète entière.
Alors, est-ce que toi, tu peux pardonner ?
C'est ça. Oui, moi, je pense que j'ai tout pardonné, mais j'ai pas non plus, je pense, vécu, entre guillemets, l'impardonnable. En tout cas, pas venant d'eux.
T'as pas vécu d'impardonnable à tes yeux non plus
aussi. Oui, à mes yeux, voilà, à mes yeux. Et donc, oui. Mais surtout, en fait, le pardon, c'est pour soi. Ça libère soi. C'est soi que ça libère. Sinon, on s'enchaîne avec la personne dans un cycle infernal de colère et de rancœur. Et ça nous bouffe, nous, quoi. Mm. Donc, bien sûr que c'est difficile, le pardon. Et il y a plein d'étapes avant d'arriver au pardon. Et notamment, je le dis, mais très important, enfin, la libération de la colère et l'expression de cette colère qui est... Dans notre société, il y a peu d'endroits où on peut crier, taper. Enfin, tu vois, c'est aussi pour ça que je trouve que c'est important de partir en retraite, en week-end, en stage, etc. Et ça fait partie du processus de pardon, quoi. D'aussi exprimer ce qu'on a vécu et les émotions qu'on a vécues.
Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Attends, parce qu'il y a mon rédac chef qui vient de me dire « Mais pourquoi vous avez les mêmes chaussettes avec Louise ?» Parce que c'est une marque qu'on aime beaucoup qui s'appelle Tagine Banane. Et donc, c'est une marque...
Mais c'était pas du tout prévu.
C'était pas du tout prévu. Quand on a enlevé nos chaussures, on s'est dit « Oh tiens, on est copines de chaussettes !» Bon, voilà. Bon, et toi, Joséphine, c'est vrai que c'est les couleurs du podcast un petit peu. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce qu'on peut tout pardonner à nos parents ou pas ? Toi, dans ton cas, on va plutôt parler de toi.
Pour l'instant, compliqué. Je pense pas tout, quand même. Bon, pas dans mon cas. Je pense qu'un jour, je pourrais pardonner. Mais il me faudra beaucoup de temps. Et je pense que, bon, malheureusement, dans mon cas, ce sera quand mon père sera décédé, que je pense qu'après, je pourrais faire, tu vois, ce travail, ce deuil et aussi pardonner à la fin. Je pense que ça sera la dernière étape.
C'est un deuil, en fait, aussi. Le pardon, c'est un vrai deuil aussi. Hein.
Mais vu qu'il est toujours là, pour l'instant, pour moi, j'y arrive pas. J'ai essayé, mais c'est au-delà de mes forces. Vraiment, c'est un sujet qui est trop, trop vif. Et j'ai besoin, en fait, de temps.
On a compris que tu avais besoin de temps. Oui.
Énormément. Et du coup, voilà, après, je suis d'accord avec toi. Le pardon, c'est pour soi. Et j'espère que j'y arriverai, parce que moi, j'ai beaucoup de colère, mais c'est pas dû qu'à mon père. C'est dû à mon adoption, à plein de choses. Et oui, j'espère que j'y arriverai pour aller mieux. Pour que cette colère parte, parce que ça bouffe un peu la vie, quoi. Donc, voilà.
Moi, pour répondre à ça, vu que vous me posez la question et que vous coupez la parole pour me poser la question, alors, idéalement, on va dire comme ça, je pense que ce serait super de pouvoir tout pardonner à nos parents pour nous foutre la paix, tu vois. Qu'une fois, on soit dans un truc de « ils ont fait ce qu'ils ont pu », c'est pas toujours ok, mais c'est pardonné pour qu'on puisse, nous, avancer en tant qu'enfant. Dans les faits, je trouve que c'est pas évident, tu vois, de pardonner. Alors, c'est pas tant l'impardonnable, parce qu'en plus, l'impardonnable, ça se place à un niveau qui est propre à chacun, chacune. Mais pour ma part, je pense que j'ai pardonné beaucoup pendant longtemps, parce que je voulais pas faire de vagues, je voulais pas être relou, je voulais pas leur reprocher des choses, parce que mon frère le faisait à ma place, il le faisait pas à ma place, mais il prenait cette place-là, donc j'ai pas voulu le faire. Et en fait, maintenant que je travaille sur moi et que j'apprends des choses, je n'attends plus d'eux. En fait, c'est ça qui a vachement... Enfin, non. Je suis en train de ne plus attendre d'eux. Pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que j'attends encore, allez, 10%. Il y a un an, j'étais à 80%, mais j'attends à 10% qui changent sur des points, mais je sais que dans les faits, ça ne changeront pas, ils ne changeront pas, et que c'est à moi de bouger, c'est à moi de changer mon fusil d'épaule, etc. Et je crois que réellement, une fois, et c'est très juste ce que tu dis, c'est qu'une fois qu'on leur a pardonné, c'est qu'en fait, c'est pour nous. C'est qu'il y a un vrai truc, c'est pas tout à fait comme ça que tu l'as dit, mais c'était quoi ta phrase? Parce que je trouvais que c'était hyper juste.
Ça nous libère, nous, de cette colère,
oui,
et cette rancœur.
Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est une question qu'on vous pose à vous aussi. Est-ce que pour vous, tout est pardonnable ou pas? Merci à vous, puisque nous arrivons enfin, mais c'est juste que j'ai extrêmement chaud, que je sue comme pas possible, à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. À vous aussi, que vous étiez contente d'être là, de pouvoir partager tout ça avec moi et avec nous. Le prochain live aura lieu le 22 novembre. Donc, vous le notez maintenant. Là, maintenant. On fait une pause, vous le notez.
22 novembre.
Ok, c'est bon, c'est super. N'oubliez pas de vous abonner au podcast. Vous pouvez également me suivre sur Insta et sur Twitch, bien sûr. Louise, son compte Instagram, c'est Louise Chabat. Voilà. Parce que j'avais vu quelqu'un bien plus haut, au tout début de ce live, qui disait, ah, tiens, ça m'intéresse ce qu'elle fait. Allez la suivre sur Instagram. Toi, je ne connais pas du tout tes réseaux sociaux.
J'en ai pas.
Elle n'en a pas. Non, c'est pas grave. C'est aussi très bien comme ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast. Même studio, même micro. Salut, à bientôt.
Merci, Juliette.
Salut.
Merci,
Juliette.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.